Europe 1.
Nous sommes le mardi 12 mars, il est 7h.
Europe 1 matin.
7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Le projet de loi sur la fin de vie à l'Assemblée, fin mai, le vote sur le soutien à l'Ukraine aujourd'hui, des sujets de société, des sujets clivants pour obliger le Rassemblement National à se positionner en pleine campagne pour les élections européennes, le décryptage de la stratégie de l'exécutif dans un instant. Dans l'actualité également, un quartier hors de contrôle à Rennes, une heure de fusillade sur fond de trafic de drogue, ça s'est passé dimanche, et les habitants sous le choc ne décolèrent pas, vous les entendrez. Un statut d'autonomie, mais pas de reconnaissance d'un peuple corse. L'État et les élus locaux de l'île de Beauté sont tombés d'accord cette nuit. Et puis le bilan des crues dans le Gard, 5 morts, la plupart se trouvaient sur des ponts submersibles dont la sécurité pose question.
Europe 1.
Le journal de 7h sur Europe 1, Victor Porcher. Bonjour Victor.
Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Emmanuel Macron en a annoncé les contours. Hier, Gabriel Attal, la date, ce sera le 27 mai. Le projet de loi sur la fin de vie arrivera à l'Assemblée nationale. Et hier soir, à Catherine Vautrin, ministre de la Santé, d'en détailler les mesures phares.
Ce qui est prévu, c'est que lorsque une personne est majeure, il a tout son discernement, il est frappé d'une maladie grave et incurable, il souffre de souffrances qui sont à la fois réfractaires, qu'elles soient psychologiques ou psychiques, à ce moment-là, il peut effectivement demander à bénéficier de l'aide à mourir. À partir de là, la première question qui sera posée, c'est de lui proposer des soins palliatifs. Il accepte ou il n'accepte pas. Une fois que la personne demande l'aide à mourir, il y a l'avis, à ce moment-là, collégial de médecin. Il y a 15 jours pour rendre cet avis. Ensuite, la personne est informée de l'avis. On lui demande de réfléchir un minimum de 2 jours après cet avis pour ensuite pouvoir avoir la prescription.
Le 27 mai prochain, donc, dans l'hémicycle pour ce texte qui divise toute la société. Pas de projet de loi, mais un autre débat, puis un vote clivant. Dès aujourd'hui, les députés se penchent sur les accords de soutien signés avec l'Ukraine. À chaque fois, c'est Emmanuel Macron qui est à la baguette. Et ce, en pleine campagne pour les européennes, c'est loin d'être un hasard, Jacques Seré.
Emmanuel Macron monte au front et il n'avance pas à découvert. Le président du en même temps prend position après l'inscription de l'IVG dans la Constitution qui restera à jamais comme un marqueur. Cœur de ces années à l'Élysée, le chef de l'État veut maintenant permettre le suicide assisté et l'euthanasie, des choix sociétaux clivants qui s'inscrivent dans son agenda politique, car s'il a longtemps hésité et beaucoup consulté, c'est finalement à 3 mois des élections européennes qu'il décide de dévoiler son jeu, une manière de s'afficher comme le tenant d'une ligne progressiste et de diviser ses adversaires tels que les Républicains ou le Rassemblement National, loin d'être unanime sur de tels enjeux, une stratégie déjà à l'œuvre au sujet de la guerre en Ukraine, le président a lui-même demandé la tenue d'un débat aujourd'hui et demain au Parlement sur l'accord de sécurité franco-ukrainien. Le principal objectif de l'exécutif sera de dénoncer les ambiguïtés du RN à l'égard de la Russie. Tout le sens du début de campagne de la tête de liste macroniste Valérie Ayé, distancée dans les sondages par Jordan Bardella.
Jacques Seré pour Europe 1 qui évoquait le conflit ukrainien et Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, revenait hier sur l'hypothèse d'envoi de troupes françaises pour de la formation. Oui, mais vos enfants n'ont pas à mourir en Ukraine, nous dit-il, tant que son armée contient les forces russes.
La Russie, justement, est-elle derrière la cyberattaque ciblée contre les ministères français?
Un groupe de hackers soudanais l'a revendiqué, oui, mais ses positions sont définitivement pro-russes. Une cellule de crise a été activée, la situation revient à la normale, mais elle n'est pas à prendre à la légère, selon Guillaume Tissier, le directeur du forum InCyber de Lille, qui revient également sur le profil des hackers.
Ce sont des attaques qui sont vraiment des attaques de déstabilisation, dont l'objectif est de perturber. Alors quand il s'agit de perturber des sites web, on va dire que c'est pas forcément très grave. En revanche, lorsqu'il s'agit de systèmes peut-être un peu plus critiques, les conséquences pour les populations peuvent être importantes. Donc il faut surtout pas banaliser ce type d'attaque. Ce groupe réagit systématiquement en défense de l'islam, en même temps affiche parfois des positions très pro-russes. Et on a vu dans le passé des attaques de ce type finalement contre tous les pays qui avaient soutenu l'Ukraine.
Les propos recueillis par Aurélien Fleureau pour Europe 1. 5 heures de négociations pour un compromis entre l'État et les élus corses. Un projet d'écriture constitutionnelle qui reconnaîtra un statut d'autonomie de l'île, mais pas de notion de peuple corse, précise Gérald Darmanin. C'était une ligne rouge du gouvernement.
Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h05.
Plus d'une heure, c'est la fusillade la plus longue en France depuis les attentats du Bataclan.
C'est là, regarde. Oh là, c'est quoi ça?
C'est ce que nous apprend ce matin le quotidien Telegram sur ces échanges de coups de feu dans Rennes. C'était dans la nuit de samedi à dimanche, dans un quartier de la ville connu pour ses points de deal et son trafic de drogue. Des balles perdues ont même fini leur course dans l'appartement de ses habitants encore traumatisés.
La balle est rentrée par le montant de la fenêtre. Elle a sectionné le tourniquet pour monter le volet. Elle a suivi son chemin dans mon micro-ondes. Si j'étais venu dans la cuisine, eh ben je serais mort actuellement.
D'entendre tous ces coups là, on n'est pas habitué à ça. Quoi. On se dit, on voit ça à la télé, on ne voit pas ça chez nous. Ça part de partout, ça. C'est... Et moi, j'en ai marre, quoi. J'en ai marre d'avoir peur.
Et ses habitants encore traumatisés. Je vous rappelle que deux personnes avaient été blessées, dont une grièvement dans ces échanges de coups de feu.
Le Premier ministre haïtien accepte finalement de démissionner.
C'est ce qu'indique la communauté des Caraïbes ce matin. Ariel Henry, sous la pression des gangs qui assiègent le pays depuis une semaine pour réclamer son départ.
En France, retour en France, le bilan des crues dans le sud-est s'alourdit. 5 morts désormais.
Le corps d'un homme retrouvé hier dans l'Hérault, celui d'un autre à Dionce dans le Gard. 5 victimes pour l'heure et un point commun pour la plupart. Leur véhicule tentait de franchir un pont submersible. Des ouvrages méconnus aux nombreux avantages mais aussi potentiellement dangereux. Le reportage de l'envoyé spécial dans le Gard, Charles L'Huillier.
Le département du Gard compte une soixantaine de ponts submersibles. Ces ouvrages, rabaissés, sont conçus pour laisser s'écouler l'eau plus facilement en cas de crue. Sauf que parfois, cela peut aller très vite, explique le lieutenant-colonel Éric Agrigné.
Le niveau de l'eau arrive au niveau du pont, puis parfois en quelques minutes, peut le submerger, le faire disparaître totalement. Évidemment, ces ouvrages font l'objet d'une signalisation par l'information des automobilistes que la voie est barrée.
Sauf que ces barrières, samedi soir à Dionce, n'étaient pas là ou pas assez tôt. C'est ce que confirment Tristan et Christiane. Ils ont traversé le pont 2 heures avant le passage fatal du père et de ses 2 enfants.
Le gardon, lui, il avait déjà débordé de son lit depuis un moment et pour les barrières. Et l'eau, elle était déjà à 10 cm de passer au-dessus.
Nous, on a passé à temps et on voyait rien et donc on a passé, c'est que c'était pas barré.
Des barrières à proximité de ces ponts submersibles qui, de toutes les façons, ne font pas de miracle car elles sont facilement contournables par les automobilistes. À Dionce, Charles L'Huillier, Europe 1.
Et 4 personnes sont toujours portées disparues. Dans l'actualité également, une situation préoccupante et une trajectoire peu ambitieuse. La Cour des comptes étrille la gestion budgétaire du gouvernement dans un rapport publié aujourd'hui. Pierre Moscovici, son premier président, demande même 50 milliards d'économies d'ici 2027.
De l'argent, il en faudrait pour mieux rémunérer les médecins généralistes qui menacent de déserter le système.
Et de se déconventionner pour être mieux payés. Pour eux, c'est clair, la consultation n'est pas suffisamment valorisée. Alors que des négociations sont en cours, le reportage de Charles Guyard pour Europe 1.
C'est une signature en ligne qui est gardée par un huissier.
Ce paraphe, Adrien Combeau, qui exerce à l'Anilis dans le Finistère, l'a adossé à une lettre d'intention menaçant de quitter le système conventionnel si le prix de la consultation n'augmente pas.
Il faut que l'acte soit valorisé pour qu'on fasse peut-être moins d'actes, qu'on puisse déléguer certaines choses, mais mieux payer.
Mieux payer, c'est-à-dire au moins 30 euros au lieu des 26,50 euros actuellement. L'idée n'est pas de s'enrichir personnellement, mais de pouvoir investir pour soulager une médecine à bout de souffle.
On le voit aussi bien à l'hôpital avec toutes les catastrophes qui s'enchaînent aux urgences. On le voit aussi dans le système libéral. Tout le monde est pris dans la même logique mortifère d'être payé de moins en moins en regard du coût de la vie. On nous demande d'embaucher des assistants, mais au prix de la consultation, c'est quasiment du suicide économique. Donc si on peut adapter nos honoraires, on pourra faire plus. Embaucher, agrandir les cabinets, avoir du matériel pour faire des échographies, et pour donner aux jeunes envie aussi de s'installer.
Et pour l'heure, ils sont près de 5000 médecins généralistes en France à avoir signé cette fameuse lettre d'intention.
Charles Guyard pour Europe 1. Et puis il y a du foot ce soir, 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Arsenal, Porto, Barcelone, Naples au programme à 21h.
Merci beaucoup Victor Pourchet, c'était votre journal.
Il est 7h09 sur Europe 1, à suivre l'édito éco.
On va se pencher ce matin sur le compte personnel formation. Depuis le 15 janvier, on peut l'utiliser pour passer le permis moto. Alors c'est un carton, mais est-ce que c'est vraiment le rôle du CPF? On se posera la question avec Nicolas Bouzou. Juste après l'invité actu d'Europe 1 matin, question sur la fin de vie avec la vice-présidente de l'association française pour les soins palliatifs. À tout de suite.
7h, 9h.
Europe 1 matin.
Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le docteur Ségolène Perrucchio.
Bonjour Ségolène Perrucchio.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes la chef du service de soins palliatifs du centre hospitalier Rive de Seine à Puteaux dans les Hauts-de-Seine. Vous êtes aussi vice-présidente de la SFAP. C'est la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, société reconnue d'utilité publique. Alors Emmanuel Macron a dévoilé dimanche, Ségolène Perrucchio, les contours d'un projet de loi qui va donc ouvrir la possibilité de demander une aide à mourir sous certaines conditions strictes. Vous êtes opposée, Ségolène Perrucchio, et la Société française de soins palliatifs derrière vous, à cette aide à mourir. Pourquoi ?
Alors plus encore que d'être opposé à l'aide à mourir, parce que les soignants n'ont pas vocation à légiférer à la place du législateur, la Société française de soins palliatifs et les soignants de soins palliatifs s'opposent à la participation des soignants à cette aide active à mourir. Déjà, avec le premier postulat, c'est que ce n'est pas de ça dont les Français ont besoin, ce n'est pas de ça dont nos patients ont besoin, nous qui sommes au quotidien confrontés à la fin de vie. On sait qu'on est capable, on sait le faire, d'accompagner les gens correctement pour peu qu'on nous en donne les moyens. Mmh. Et ça, c'est vraiment le premier scandale. C'est qu'un patient sur deux aujourd'hui en France qui devrait bénéficier de soins palliatifs ne peut pas en bénéficier, rapport de la Cour des comptes.
Mais dans votre service, Ségolène Perrucchio, je voudrais que vous nous racontiez ce qui s'y passe, les soins palliatifs. Jamais il y a un malade qui vous dit « Docteur, j'aimerais en finir, c'est trop dur, j'ai trop mal, aidez-moi à mourir ». Ça ne vous arrive jamais?
Bien sûr que ça nous arrive. Mmh. Mais ça nous arrive aussi que, et quasiment toujours, en je crois 12 ans que je suis en service, il y a eu peut-être 3 ou 4 patients qui ont réitéré leur demande et qui l'ont maintenue malgré la prise en charge. Mmh. Il y a encore très peu de temps, on a accueilli dans le service un patient atteint d'une maladie de Charcot. Ce patient, il arrivait d'un EHPAD, il avait 60 et quelques années, c'était pas du tout adapté pour lui d'être en EHPAD, mais il n'y avait pas d'autre solution pour lui. Il est venu chez nous parce qu'il demandait à mourir, parce que les soignants d'EHPAD, pas formés et avec peu de moyens, ne savaient pas comment gérer cette demande.
Oui.
Monsieur est arrivé chez nous. Il a bien sûr réitéré cette demande. Au bout de quelques jours, elle a complètement cédé. Quelques jours, on l'a pris en charge correctement, on l'a regardé différemment.
C'est-à-dire cédé ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Il a arrêté de le demander. Il a arrêté de le demander. Il a tellement arrêté de demander.
Et pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il arrête de vous demander la mort ?
On l'a regardé différemment. Alors je sais que ça paraît compliqué à comprendre.
Oui.
On l'a regardé comme une personne. On l'a écouté d'abord dans ses souffrances, dans ses difficultés. On l'a rassuré peut-être sur les conditions de sa mort et qu'on serait à ses côtés et qu'on ne le laisserait pas s'étouffer ou ce genre de choses qui évidemment font très peur. Et on a discuté de tout et de rien. Ce monsieur avait connu Coluche, il était passionnant. On adorait rentrer dans sa chambre. Il adorait discuter avec nous.
Vous lui avez prêté de l'intérêt ? Vous lui avez apporté de l'intérêt et ça l'a détourné de cette envie, de ce désir de mort qu'il avait ?
Ça fait partie des choses. Ouais. La définition des soins palliatifs de la SFAP, c'est les soins palliatifs s'attachent à regarder la personne le malade comme une personne dans sa globalité.
Mais c'est pas la base, ça, des relations humaines, de considérer l'autre comme une personne, Ségolène Perrucchio. Enfin, ça paraît tellement basique.
Basique, je suis complètement d'accord avec vous. Claire Fourcade, la présidente de la SFAP, dit souvent « On a commencé par la fin de vie, parce que c'est là où il y avait l'urgence, c'est là que la médecine avait déserté. Mais probablement que les soins palliatifs peuvent être aussi la réhumanisation du soin. La technique a pris beaucoup de place et avec évidemment beaucoup de succès dont on est tous contents de profiter. Mais il faudrait remettre plus d'humanité dans le soin. »
Alors, réduire la douleur, parce que c'est l'enjeu des soins palliatifs, et finalement détourner les malades de cette envie d'en terminer avec la vie, ça passe par là. Et alors, très intéressant, c'est que oui, alors il y a les médicaments, les antidouleurs, etc. Mais il y a aussi des choses toutes bêtes. Par exemple, dans votre service, j'aimerais bien que vous nous racontiez ça, quand on va faire la toilette aux malades, on y va à deux. Pourquoi ? Parce que ça crée une ambiance, tout simplement, et c'est beaucoup plus sympathique, tout simplement. Et chanter aussi, chanter du Dalida, par exemple, ça met de l'ambiance et ça rend plus heureux, ça fait moins mal derrière.
Les auditeurs vont nous prendre pour des fous, mais vous avez tout à fait raison. C'est aussi ce regard-là. Bien sûr, il y a tous les médicaments, c'est notre compétence, c'est notre expertise pour que les patients soient soulagés pendant les 2 heures, parfois jusqu'à les endormir, voire les anesthésier complètement quand on fait pas autrement. Mais il y a aussi tout le reste. Les toilettes et les soins du corps sont un moment extrêmement important pour les soignants, les infirmières, les aides-soignantes qui sont tellement dévoués dans le bon sens du terme à leurs patients. Donc oui, elle leur parle. Et les gens, ils sont aussi très contents qu'on leur parle d'autres choses de la maladie, qu'on parle de tout et de rien, de la famille, de son métier, enfin, juste entre humains.
Mais comment vous regardez, comment vous interprétez ce chiffre qui est quand même assez impressionnant, c'est qu'on a aujourd'hui 70 à 80% des Français, quand on leur demande dans des sondages, est-ce que vous êtes favorable à l'aide à mourir, est-ce que vous êtes favorable à l'euthanasie, ils répondent oui. Près de 4 sur 5, comment ça s'explique d'après vous, docteur Perricchio ?
Mais pour moi, c'est assez normal. Les gens ont peur. Moi, la première, je veux dire, la mort fait peur. Les belles histoires dont nous sommes témoins ne doivent pas et ne peuvent pas effacer le tragique de la mort et de la séparation à venir. Ça reste, la finitude de l'homme reste quelque chose de complexe sur lequel les philosophes se sont penchés depuis des millénaires. Donc évidemment, ça fait peur. Et aujourd'hui, la mort a disparu de nos sociétés et on a cette image que la mort est forcément souffrance, que la mort est forcément difficulté, que la perte d'autonomie est indigne, parce que c'est beaucoup de ça qu'il s'agit. Effectivement, c'est dur. C'est même extrêmement dur. Personne n'a envie de perdre son autonomie.
Oui.
Mais l'indignité, c'est le regard que la société pose sur ces gens.
Alors, dans les reproches qu'adresse la Société française de soins palliatifs à Emmanuel Macron, ou plutôt les remarques qu'elle fait sur son projet d'aide à mourir, il y a pointé du doigt la méconnaissance du président de l'ambivalence du désir de mort. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire ?
Ça veut dire qu'on change d'avis,
c'est ça ?
Il y a quelques jours, on a eu dans le service une patiente qui avait une tumeur de la trachée, très, très gênante. Elle était essoufflée, elle n'était pas bien et elle demandait à mourir. Elle se dégradait, elle demandait à mourir. À un autre moment, une de mes collègues, pour que ça sente bon dans le service, met du papier d'Arménie, fait brûler du papier d'Arménie. Toutes portes ouvertes. Et là, j'entends cette dame qui marmonne quelque chose. Je ne la connaissais pas. Je rentre dans sa chambre, je savais qu'elle était en train de mourir, que les choses s'aggravaient très vite. Et elle me dit « c'est cancérigène, le papier d'Arménie ». Alors je lui dis « excusez-moi, c'est pas très prouvé ». Elle me dit « oui, mais moi, j'ai quand même pas envie d'attraper un cancer. Hein. J'en ai déjà un, ça suffit ». Vous voyez, voilà, l'ambivalence, c'est ça. C'est que cette dame qui savait qu'elle allait mourir, qui disait que c'était trop long et qu'elle n'en pouvait plus, on a fini d'ailleurs par endormir parce qu'elle souffrait. Par ailleurs, une autre partie d'elle-même disait « je vais quand même pas attraper un cancer à cause de votre papier d'Arménie ». Voilà l'ambivalence.
On en est où aujourd'hui, Ségolène Perricchio, du développement des soins palliatifs en France ? Parce que c'est une promesse du président de la République. Il y a plus d'1,5 milliard d'euros qui est consacré annuellement. Et dans le projet de loi, il se trouve que la première partie du texte doit ancrer dans le marbre législatif cette idée de la nécessité de développer les soins palliatifs. On en est où là aujourd'hui ?
Au milieu du guet, je dirais. La Cour des comptes nous dit un patient sur deux qui devrait en bénéficier ne peut pas en bénéficier actuellement. Le président nous annonce une grande révolution des soins palliatifs, avec derrière un budget de 1 milliard sur 10 ans. Il faut se rendre compte que 1 milliard sur 10 ans, mis en balance par rapport au 1,5 milliard consacré par an, c'est 6% d'augmentation. C'est à peu près l'inflation. Je pense que ça ne suffira pas pour la grande révolution des soins palliatifs. Et accessoirement, personne n'ignore que nous sommes actuellement dans une grande crise du recrutement, une grande crise des vocations soignantes, et qu'on se demande bien avec quel bras il imagine faire ça. Donc il y a une vraie problématique.
Merci beaucoup docteur Ségolène Perricchio d'être venue ce matin au micro d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes la chef du service de soins palliatifs de centre hospitalier Rives-de-Seine à Puteaux et vice-présidente donc de la Société française de soins palliatifs. Merci d'être venue au micro d'Europe 1. Bonne journée à vous.
Merci, bonne journée.
Il est 7h20, l'édito écho. 7h-9h, Europe 1 matin.
Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous.
Bonjour. Alors,
Nicolas, le journal Les Échos nous apprenait hier que le CPF, donc c'est le compte personnel formation, il est très utilisé pour financer des permis moto. C'est possible hein, depuis le 15 janvier dernier. Donc les salariés se forment à conduire des motos.
Oui, alors le compte personnel formation, c'est un outil qui est très utile sur le papier, hein, qui consiste à conférer à chaque actif de notre pays un compte sur lequel est déposée une somme qui peut être utilisée pour se former. C'est une réforme a priori très utile, hein, qui vise à faire de la France un pays où les gens qui travaillent se forment en permanence pour actualiser leurs compétences, pour être plus productifs, pour gagner plus, pour changer de métier. Bon, très bien. Alors le souci, c'est que cet outil est dévoyé. Hein. Les deux principales utilisations du CPF sont en effet le permis moto et le permis B, c'est-à-dire le permis voiture. D'après Les Échos, sur les 8 premières semaines de 2024, il y a eu 35 000 demandes de permis moto, ce qui a coûté aux Français 38 millions d'euros. Alors les permis B hein, suscitent aussi un fort engouement. 37 millions d'euros ont été dépensés depuis le début de l'année, loin devant les formations pour les créateurs d'entreprises, les repreneurs d'entreprises, ou loin devant les formations d'anglais, par exemple. Alors moi, je pensais naïvement que le CPF pouvait être utilisé par les salariés pour se former, par exemple, à ChatGPT dans le cadre de leur métier. J'ai été naïf.
Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que le CPF finance les loisirs, Nicolas ?
Ah, j'irais vraiment jusqu'à vous le dire. Hein. Je vous raconte une expérience personnelle. Je visitais il y a quelques jours un centre de formation dédié à des artisans. Il y avait une dizaine d'élèves, tous m'ont dit qu'ils venaient sans projet professionnel précis. C'est d'ailleurs pour limiter ces abus que le gouvernement a prévu d'instaurer un reste à charge d'au moins 10% pour les utilisateurs du CPF. Ce serait opérationnel à partir du 1er mai.
Alors ce sera un forfait de 100 euros, apprends-toi.
Exactement. Ouais. Ce que cette histoire souligne, c'est un problème assez général des politiques publiques dans notre pays. On met en place des mesures bien intentionnées, coûteuses, mais qui sont souvent détournées. L'économiste Bruno Coquet prenait la semaine dernière dans le journal L'Opinion l'exemple du plan Un jeune, une solution, qui a été lancé en 2020 après le premier confinement. C'était bien intentionné, il s'agissait d'aider les jeunes à s'en sortir économiquement malgré la pandémie. Alors c'était très coûteux, plusieurs dizaines de milliards, mais ça n'a pas eu les effets escomptés. Fin 2019, 12,2% des gens étaient ce qu'on appelle des nets, des jeunes sans emploi, qui ne sont pas en études, qui ne font pas de formation. Ils étaient 12,5% en 2023, un peu plus.
Bon, le CPF, les aides à l'apprentissage, c'était donc des erreurs, vous pensez ?
Non, bien sûr, mais il faut les contrôler davantage. Le CPF, c'est fait pour se former au travail, pas pour financer les loisirs. L'apprentissage doit être dirigé en priorité vers les jeunes faiblement qualifiés pour les aider à s'insérer sur le marché du travail. Or, la majorité de ceux qui en bénéficient préparent un diplôme d'enseignement supérieur. Alors, si ceux qui profitent de l'argent public, les salariés, les entreprises, ne se régulent pas eux-mêmes, il faudra des mesures encore plus restrictives. C'est dommage.
Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci Nicolas.
Europe 1.
Tous les soirs sur Europe 1, retrouvez l'actualité de la journée avec Laurence Ferrari.
Oui, des débats, des analyses, des invités pour prendre le temps de décrypter toute l'actualité de la journée avec Laurence Ferrari. C'est Punchline et c'est tous les jours 18h-19h sur Europe 1.
Merci d'écouter Europe 1. Bonne journée. Bon début de journée. Nous sommes le mardi 12 mars. L'essentiel de l'actualité, c'est le journal permanent. Victor Pourchet.
Le soutien à l'Ukraine au cœur des débats à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, les députés appelés au vote sur les accords signés entre Kiev et Paris par Emmanuel Macron. À Gaza, Israël tente de tuer le numéro 2 de la branche armée du Hamas. Tel Aviv n'est pas encore sûr d'avoir éliminé Marwan Issa. Et puis, les réservations de vos billets TGV pour l'été vont-elles être perturbées ? Ouverture prévue demain, oui. Mais Sudrail, le syndicat, appelle les employés des guichets et de la centrale téléphonique à la grève.
Le César du meilleur acteur.
Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos.
Yes, we can.
Serge Gainsbourg, bonjour.
Il n'y a eu qu'un vainqueur. L'espoir.
Europe 1. Et à 7h24 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où.
C'était il y a 4 ans. Je suis sûr que vous vous en souvenez. L'épidémie mondiale de coronavirus,
ah,
vous vous rappelez ?
Oui, bien sûr.
Coronavirus, comme on l'appelait à l'époque, 12 mars 2020, donc, lors d'Autriche. Emmanuel Macron annonce aux Français ce qui sera le premier confinement.
Oui, le virus se propage depuis plusieurs semaines, le temps presse, et dans un discours aux Français à 20h, le président de la République annonce que toutes les écoles seront fermées, des crèches aux universités.
Nos enfants et nos plus jeunes sont celles et ceux qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement le virus, même si pour les enfants, ils n'ont parfois pas de symptômes.
Pourtant, quelques jours avant, qui s'inquiétait vraiment ? Emmanuel et Brigitte Macron étaient allés au théâtre pour inciter les Français à sortir. Mais la prise de conscience est finalement arrivée. 6604 Covid sont confirmés en France et 150 décès à peu près au milieu du mois de mars. Et pour les parents, eh bien, il faut s'organiser.
Ça fait peur, franchement. Surtout quand on a des enfants en bas âge et tout. Je ne sais pas comment on va faire.
Je ne m'y attendais pas du tout. Je ne le comprends pas forcément. Bon, solidarité, très bien. Ben, on va voir. Parce que faire du télétravail avec deux enfants, ce n'est pas possible.
Au début du mois d'avril, la moitié de la planète est confinée. Voilà déjà plusieurs semaines que les Français font l'école à la maison, travaillent dans leur salon. Les prises de parole politiques, elles, se contredisent. Le ministre de l'Éducation affirme que l'école est obligatoire. Mais quelques jours plus tard, l'Élysée annonce le retour à l'école au milieu du mois de mai sur la base du volontariat. Reportage sur Europe 1.
Les élèves ne commenceront pas tous à la même heure pour éviter les attroupements devant l'école. Ils devront se laver les mains une dizaine de fois par jour à chaque changement de salle. Se tenir à un mètre des autres dans les couloirs, dans la cour, dans la classe, et tous les adultes dans l'école porteront des masques.
Mais quelques jours plus tard, le conseil scientifique préconise au contraire un retour à l'école seulement au mois de septembre, discréditant la stratégie du gouvernement. Mais le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, se justifie sur Europe 1 au micro de Sonia Mabrouk.
Pour tous les enfants, quelles que soient les classes sociales, quelles que soient les difficultés, l'école, c'est pas quelque chose de secondaire. Et il faut être très attentif à ne pas faire de dégâts sur une génération entière en les laissant 6 mois sans école.
À ce moment-là, au mois de mai 2020, le Premier ministre Édouard Philippe présente aussi un plan de déconfinement au niveau national, sans savoir alors que d'autres vagues de Covid allaient arriver.
Merci Laure d'Autriche. Il est l'heure de jouer avec Europe 1 et le jour où.
7h-9h, Europe 1 Matin. Et toute cette semaine, Europe 1 vous offre un superbe week-end dans un casino hôtel Partouche avec un programme. Franchement, il y a tout ce qu'il faut pour vous amuser, vous détendre et avoir de beaux souvenirs. Deux soirées dans le casino Partouche de votre choix. Forges-les-Eaux, Contrexéville, Aix-en-Provence, hier, Divonne-les-Bains ou encore Le Havre, avec des animations sur place évidemment. 30 euros de crédit de jeu, un repas au restaurant et deux nuits à l'hôtel du casino. Vous avez toutes les infos et les photos sur le www.partouche.com.
Voici la question du jour. Qui était le ministre de l'Éducation nationale en 2020 ? Était-ce Jean-Michel Blanquer ou bien Najat Vallaud-Belkacem ?
Pour tenter votre chance et remporter ce week-end de détente et d'amusement, vous envoyez Casino par SMS au 739-21, 2x75 centimes plus coût du SMS. Vous répondez à la question du jour et le tirage au sort aura lieu vendredi. Bonne chance. Je vous rappelle qu'à 8h10, Jérôme Guedj sera l'invité de la grande interview Europe 1 CNews.
Le député socialiste de l'Essonne face à Sonia Mabrouk. Rendez-vous dans 3 quarts.
Europe 1 matin.
7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
Mais qui en veut donc à la France ? Matignon et plusieurs ministères visés par des cyberattaques en série, revendiquées par des activistes pro-russes. On y revient dans un instant. La majorité, elle se déchire sur le projet de loi de fin de vie, présenté hier par Emmanuel Macron. Vous entendrez dans un instant un député Renaissance des Yvelines. Il annonce déjà voter contre cette légalisation de l'aide active à mourir. Le gouvernement et les élus corses disent oui à l'autonomie de l'île, mais non à la reconnaissance d'un peuple corse. La prochaine étape de pourrait être une révision constitutionnelle. Et puis 11 personnes, dont un mineur, toujours en garde à vue ce matin dans l'enquête de la mort de Thomas. Nouveau coup de filet pour tenter d'identifier le meurtrier de l'adolescent de 16 ans poignardé à mort à la sortie d'un bal en novembre. Le journal de 7h30 sur Europe 1, Nina Pavan. Bonjour Nina.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Plusieurs ministères pris d'assaut par des cyberpirates depuis dimanche. Des hackers pro-russes ont revendiqué les attaques qui ont mis temporairement hors service les sites du ministère de la Culture, de la Santé, mais aussi de Matignon. Le gouvernement assure que les dégâts sont limités grâce à des contre-mesures lancées ce week-end par une cellule de crise. Mais Aurélien Fleurot, l'exécutif, a tout de même révélé que ces cyberattaques étaient d'une ampleur inédite.
La méthode est classique, une attaque par déni de service pour saturer un serveur et le rendre inaccessible. Attaque revendiquée par plusieurs groupes de hackers, connus pour prendre la défense de l'islam et de la Russie. Pas surprenant au vu du contexte international, selon Damien Brancal, expert en cyberintelligence.
On est clairement avec des pirates informatiques qui surfent sur l'actualité. Alors Anonymous Soudan, comme les autres, adore faire ces coups d'éclat qui durent quelques minutes. Hein. Mais l'important pour eux, c'est de faire passer un message. Ce sont des pirates informatiques qui sont pas vraiment à prendre au sérieux, mais quand on commence à additionner des petits pirates, on commence quand même à avoir une petite armée.
Et ce qu'ils recherchent avant tout, c'est la médiatisation, ajoute Guillaume Tissier, président du forum InCyber.
Ces groupes recherchent aussi, en plus de l'impact opérationnel, à faire parler d'eux et à communiquer pour tout simplement populariser une cause et se faire un nom, on va dire, dans la galaxie et la nébuleuse cybercriminelle et activiste.
Et les cybermenaces vont s'intensifier à l'approche des Jeux Olympiques de Paris, caisse de résonance mondiale pour des activistes qui veulent faire passer des messages.
Aurélien Fleurot.
Donner la mort n'est pas un soin, voilà le rappel fait par 18 organisations de soignants ce matin dans les colonnes du Figaro.
Réponse au projet de loi sur la fin de vie présenté hier par le président de la République et la majorité aussi se fissure sur cette question. Le député Renaissance des Yvelines, Charles Rodwell, sort du bois et assume. Il votera contre le projet de loi qui ouvre selon lui une porte dangereuse. On l'écoute.
Moi, je ne souhaite pas aujourd'hui que l'on légalise l'aide active à mourir en France. Un, parce que je considère que nous avons trouvé un point d'équilibre extraordinaire en France dans la loi, mais qui n'est pas mis en application dans notre pays aujourd'hui. Vous avez un tiers des départements français qui n'a pas accès aux soins palliatifs. Et donc pour moi, l'accès aux soins palliatifs pour tous, ce doit être notre priorité absolue. Puis de deux, aujourd'hui, vous avez un texte de loi qui est présenté à l'Assemblée, qui est très restrictif. Mais à partir du moment où vous légalisez l'aide active à mourir, peut-être que dans les prochaines années ou dans les prochaines décennies, ce champ d'application pourrait être élargi. Et moi, je ne souhaite pas cela. C'est la raison pour laquelle je m'opposerai à ce texte.
Le député Renaissance des Yvelines, Charles Rodwell. Et hier soir, à la télévision, la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, a affirmé que l'objectif était bien de doubler l'investissement dans les soins palliatifs dans les 10 ans à venir.
11 personnes toujours en garde à vue ce matin dans l'affaire de la mort de Thomas, interpellé hier dans la cité de la Monnaie, à Romans-sur-Isère.
Thomas, cet adolescent de 16 ans, poignardé à mort à la sortie d'un bal de village à Crépol, dans la Drôme, en novembre dernier. Près de 4 mois après sa mort, toujours pas de coupable ni d'arme du crime. Noémie Loisel, ce nouveau coup de filet va peut-être faire avancer l'enquête.
Oui, exactement. Un mineur et 10 majeurs ont été interpellés, la plupart dans le quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère, dont sont issus certains suspects déjà mis en examen. Tous sont de nationalité française et la plupart sont connus pour des délits mineurs. Selon Le Parisien, lors des perquisitions, plusieurs tenues vestimentaires potentiellement portées au moment du drame ont été saisies par les gendarmes. Des téléphones et au moins 3 armes blanches ont aussi été découverts chez les suspects et seront expertisés. À ce stade, aucun lien n'a été confirmé entre ces couteaux et cette affaire, selon la même source. Près de 4 mois après ce meurtre, l'enquête est toujours en cours, l'arme du crime n'a pas été retrouvée et les circonstances exactes du drame restent encore floues. 9 jeunes âgés de 16 à 22 ans avaient déjà été mis en examen, 6 se trouvent en détention provisoire. Mais aujourd'hui, aucun d'entre eux n'a reconnu avoir porté le coup de couteau mortel à Thomas.
Noémie Loisel, correspondante d'Europe 1 en Auvergne-Rhône-Alpes. La colère et la stupeur dans le village de Clermont-d'Excideuil en Périgord vert. Hier, des tags au nom d'Allah et de, je cite, l'ours musulman qui se réveillent ont été découverts sur les tombes des cimetières. Les calvaires en pierre des villages voisins avaient déjà été tagués. Une enquête de la gendarmerie est en cours.
7h36 sur Europe 1, la Corse met tout le monde d'accord. Le gouvernement et les élus de Lille ont trouvé un terrain d'entente hier soir pour reconnaître l'autonomie de Lille. Ce sera inscrit dans la Constitution.
Un projet d'écriture constitutionnelle dont l'idée avait été lancée par Emmanuel Macron à l'automne dernier. Alexandre Chauveau, après de longues discussions hier soir, le ministre de l'Intérieur et les élus corses se félicitent d'un juste compromis.
Les discussions traînaient en longueur. Elles ont finalement abouti hier soir à la satisfaction de Laurent Marcangeli, député de la Corse du Sud.
Je crois que nous allons dans le bon sens. C'est le sens de la reconnaissance. Et c'est le sens d'une étape nouvelle dans ce processus d'autonomie que nous appelons de nos voeux.
Gérald Darmanin, lui, évoque une avancée considérable et se félicite d'un consensus obtenu sans franchir les lignes rouges fixées par l'exécutif.
La Corse pourra libéraliser des contraintes administratives qui l'empêchent de vivre. Et ce pouvoir d'adaptation ne crée cependant pas la séparation de la Corse avec la République, puisqu'on n'évoque ni le peuple, ni le statut de résident, ni la officialité de la langue.
Concrètement, si l'écriture actuelle était adoptée, Lille pourrait par exemple adapter ses lois en matière de foncier ou d'urbanisme, le champ précis de ses compétences devant néanmoins être soumis au Parlement. Reste que le chemin est encore long, le texte doit désormais être voté par l'Assemblée de Corse, puis par l'Assemblée nationale et le Sénat, ainsi que les 3/5 du Congrès réunis à Versailles. Un obstacle de taille au regard des réticences déjà émises par plusieurs parlementaires.
Alexandre Chauveau, en bref, Sudrail annonce une grève demain dans les guichets et au standard téléphonique de la SNCF. Mobilisation le jour de l'ouverture des ventes des billets pour les vacances d'été. Objectif, dénoncer les conditions de travail des agents. Et puis décidément, rien n'arrête l'envolée du Bitcoin, la crypto-monnaie qui a déjà convaincu un Français sur 10 à dépasser hier les 72 000 $.
Voilà, ça s'est un peu tassé dans la nuit parce que la cotation Bitcoin, elle a lieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais oui, on est quand même à des niveaux historiquement élevés pour la reine des crypto-monnaies. Merci beaucoup Nina Pavant. C'était votre journal. Cette question posée par le souverain pontife. Est-ce que l'Ukraine doit hisser le drapeau blanc? C'est le sens de l'appel lancé ce week-end par le pape François qui estime que Kiev doit avoir le courage de négocier avec Vladimir Poutine. Alors autant vous dire que ça passe extrêmement mal à Kiev et dans l'ensemble des chancelleries occidentales. On va en parler avec Vincent Hervouette dans un instant.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Merci d'avoir choisi Europe 1. Très bon début de journée. Bon réveil, il est 7h41. Dimitri Pavlenko.
Dans 10 minutes, l'édito politique. On va se pencher sur le calendrier des textes qui seront examinés au Parlement d'ici la fin de l'année. On verra que les textes sensibles, fonction publique, la fin de rente, certaines professions protégées, tout ça sera renvoyé au second semestre. La fin de vie, en revanche, ce sera le 27 mai. Et cette date n'est absolument pas due au hasard, nous dira Alexis Brézet. Le Club Culture d'Europe 1 matin. Les sorties jeux vidéo. Pour commencer, Caroline Speller, bonjour.
Bonjour Dimitri. Alors aujourd'hui, je vous propose 2 jeux vidéo dans l'ambiance familiale, douceur, qui nous permet de retomber en enfance avec Mario versus Donkey Kong et Promenade.
Allez, à tout de suite. Le livre du jour également. Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour, j'ai le nouveau roman de Nicolas Ray. Ah. Je suis fan.
À tout de suite. Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous, bonjour à Madeleine.
Bonjour à Madeleine. Le pape François, cible de toutes les critiques, Vincent, après qu'il a appelé l'Ukraine à avoir le courage de hisser le drapeau blanc et de négocier avec la Russie.
Alors des politiciens qui font la morale au pape, hein, c'est un peu comme si Kim Kardashian donnait des leçons de maintien et de bon goût au roi Charles d'Angleterre. Depuis dimanche, le secrétaire général de l'OTAN, Berlin, les Pays-Bas, des fonctionnaires de l'Union européenne, etc. s'indignent. Pas qu'il y ait des centaines de milliers de morts et de blessés en Ukraine et en Russie, mais que François refuse de servir d'aumônier à l'OTAN, comme le patriarche Kirill sert d'enfant de cœur à Vladimir Poutine. La ministre allemande de la Défense lui fait la leçon. Si l'Ukraine et ses alliés ne font pas preuve de force maintenant, il n'y aura pas la paix, dit-elle. On doute que Mme Baerbock dise la même chose et sur le même ton à Donald Trump, s'il est élu et s'il décide dans quelques mois de régler le problème russo-ukrainien en 24 heures, comme il l'a promis. Le plus virulent a naturellement été le ministre ukrainien des Affaires étrangères.
Il a accusé le Vatican de légaliser le droit du plus fort.
Oui, il l'a invité à ne pas répéter les erreurs du passé, comme si Pie XII avait vraiment collaboré avec l'Allemagne nazie. La calomnie est remarquable, venant de Kiev. Sur le fond, il y a 2 ans, quand le ministre ukrainien négociait avec son homologue Lavrov le sort du Donbass et l'abandon de la Crimée, quand il marchandait la neutralité de l'Ukraine en échange du repli russe, est-ce que c'était un collabo? On imagine en tout cas son soulagement quand Boris Johnson a débarqué en disant « Arrêtez tout, on va vous livrer ce qu'il faut pour gagner la guerre ». Hier, le ministre ukrainien a convoqué le nonce apostolique, c'est pour les diplomates l'équivalent du pilori. C'est rarissime d'y coller un prélat. Le gouvernement Zelensky a donc sermonné Monseigneur Kubokas. Le pape ferait mieux d'inciter la communauté internationale à unir ses forces pour assurer la victoire du bien sur le mal. L'évêque, d'origine lituanienne, a été diplomate au Liban, en Russie, au Kenya. Il doit avoir une certaine expérience du bien et du mal, surtout quand la guerre oppose des voisins si proches qu'elle ressemble à une guerre civile.
Alors dans cette histoire, le pape donne l'impression quand même de renvoyer Ukrainiens et Russes dos à dos.
Alors on lui a reproché l'an dernier à Pâques, quand il a choisi 2 familles, une Ukrainienne et une Russe, pour porter la croix jusqu'au Colisée le vendredi saint. Mais le pape François appelle toutes les semaines depuis 2 ans à prier pour l'Ukraine martyrisée. Il a dénoncé l'invasion moralement injuste, inacceptable, barbare, insensée, répugnante et sacrilège. Il a comparé cette guerre aux 2 autres génocides ukrainiens, la famine ordonnée par Staline et l'extermination des Juifs. Mais il a aussi dénoncé les aboiements de l'OTAN aux portes de la Russie, 2 ans avant que le New York Times révèle l'existence de 12 camps secrets de la CIA aux frontières. Et il a été révolté par l'attentat contre l'intellectuel Alexandre Douguine, dont la fille a été tuée par les services ukrainiens. Le pape passe pour l'idiot utile du Kremlin quand il dit aux Ukrainiens que c'est à eux d'appeler à négocier. Mais Américains et Européens disent hypocritement la même chose, que la guerre continuera tant que l'Ukraine le voudra, alors que c'est de leur aide que dépend la poursuite du conflit. Ce pape, en réalité, est pacifiste au point de douter qu'il y ait des guerres justes. Il craint une 3e guerre mondiale, il pense même qu'elle a commencé, et à ses yeux, seule la vie est sacrée, la vie de la conception à la mort naturelle. Ciel ! Le pape est catholique ! Ben c'est normal que ça fasse scandale en Europe.
Signature Europe 1, Vincent Hervouette, merci beaucoup Vincent. 7h46.
7h-9h, Europe 1 Matin.
Nicolas Caro, ce matin, vous nous parlez du nouveau roman de Nicolas Ray.
Médecine douce, oui, l'histoire de Martin Faubert, un médecin généraliste désabusé. La cinquantaine, il voit défiler ses patients et il fait payer à la tête du client de 27 euros à 150. Il aime ou il aime pas, c'est comme ça. Les premières lignes sont claires. Je m'appelle Martin Faubert et tu n'es pas en train de consulter un essai sur la sobriété heureuse ou la puissance des pensées positives qui ne demandent qu'à surgir de toi-même. Je ne suis vraiment pas d'humeur en ce moment.
Mais c'est pas la forme apparemment. Non,
mais c'est qu'ils s'ennuient en fait. Tout est un peu trop bien réglé. Marié, 2 enfants, il s'entend mal avec son fils de 12, mais très bien avec sa fille Chloé, 7 ans, à qui il raconte absolument tout. Ses patients aussi l'agacent prodigieusement. Tout le monde arrive en pensant que son enfant est HPI ou hypersensible. Ils viennent avec leur propre diagnostic seulement pour demander une ordonnance. Alors après 10 ans d'études à manger des raviolis à même la boîte dans une sordide piole universitaire, dit-il, ça le gave. Sans compter qu'un médecin généraliste n'a jamais de vacances, même hors du cabinet, il y a toujours un un ami pour lui demander s'il pourrait jeter un œil à ce truc bénin. Oh, rien du tout, c'est là, tu vois, mais est-ce qu'il pourrait regarder quand même, hein, pour être assuré? Il en a marre.
Et donc, c'est le journal de ce médecin, ce livre, en quelque sorte.
On suit ses consultations, ça c'est génial, mais il n'y a pas que ça. On est dans un roman de Nicolas Rey, donc il y a forcément une histoire d'amour. Il se trouve qu'un jour, une femme sublime, Aurore Rosier, chef d'une entreprise internationale, genre Working Girl pressée, entre dans le cabinet de Martin. Il tombe immédiatement amoureux. Elle lui annonce qu'elle dort mal à cause sans doute de ses nombreux voyages en avion et du décalage horaire. Alors il l'envoie faire une prise de sang dans un laboratoire précis et demande à son copain qui dirige le labo de placer le mot syphilis dans les résultats. Ensuite, il lui annonce et convoque le mari pour lui demander à lui aussi de faire une prise de sang dans ce même labo. Et bien entendu, il aura la syphilis aussi, seulement sur le papier, mais ça devrait suffire pour faire exploser le couple. Et voilà comment Martin Faubert va mettre un peu de piment dans sa vie et dans celle des autres. C'est très drôle, vous avez compris, ça déborde de formules géniales et en même temps, il y a quelque chose de très touchant, c'est du pur Nicolas Rey.
Bon, les médecins font ce genre de choses.
Je ne pense pas, je n'espère pas.
Non, mais un médecin désabusé, mais dans les romans, amoureux...
Bon, voilà, en tout cas, médecine douce, pas si douce que ça apparemment, le dernier livre de Nicolas Rey, Au diable Vauvert. Les jeux vidéo, Caroline Speller, aujourd'hui, deux jeux vidéo familiaux dans un genre qui vieillit bien, le jeu de plateforme.
Oui, on commence avec la pépite française, Promenade, composée de seulement 4 personnes au développement. Le studio nantais Olicap nous propose un jeu de plateforme et d'exploration. On incarne Nemo, un enfant qui doit retrouver les rouages de l'ascenseur du monde éparpillés par une entité maléfique. Pour le réparer, on parcourt 10 niveaux différents, inspirés de Peter Pan à Alice au Pays des Merveilles.
Voilà, ça s'appelle donc Promenade, second titre. Alors lui, c'est la très grande star des jeux vidéo.
It's me, Mario.
Oui, Mario reprend du service face à son premier ennemi gorille dans Mario vs Donkey Kong. Un remake d'un jeu sorti en 2004 sur la console portable de Nintendo, la Game Boy Advance. Dépoussiéré pour la Switch, ça donne un jeu de réflexion et de plateforme. Ici, pas de princesse à sauver, mais des jouets mini Mario volés par Donkey, qui trouvait ça plus intéressant que ce banane.
Mais en quoi ce Mario versus Donkey Kong est un jeu de réflexion, Caroline ?
Parce qu'en plus de faire l'acrobate en courant, sautant et grimpant, on doit observer chaque niveau, trouver une clé et le meilleur chemin vers la sortie. Alors comment ? En actionnant des interrupteurs pour faire apparaître et disparaître des plateformes tout en évitant les pièges et les ennemis croisés. Et ne pensez pas que Donkey est là pour faire de la figuration, non, il faut l'affronter à la fin des 8 mondes. Seul ou à 2 joueurs, Mario vs Donkey Kong nous prouve qu'on est toujours aussi bien dans la salopette du plombier moustachu.
Merci beaucoup Caroline Speller, merci beaucoup les amis. Dans un instant, votre édito politique sur Europe 1 avec Alexis Brézet. On va revenir sur le calendrier parlementaire de cette loi sur la fin de vie, mais d'abord le journal permanent à 7h50. Nina Pavon.
Débat houleux en vue à l'Assemblée nationale cet après-midi, des discussions symboliques sur le plan de soutien à Kiev dont la majorité pourrait se servir pour dénoncer les positions du Rassemblement national vis-à-vis de la Russie. Un pas de plus vers la reconnaissance de l'autonomie de la Corse, les élus de Lille et le gouvernement se sont mis d'accord hier soir. Prochaine étape, une révision de la Constitution. 5 départements vigilance orange pour crue ce matin, Lyon, le Puy-de-Dôme, la Charente-Maritime, la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques. Le bilan humain des crues qui s'est alourdi. Hier, 5 morts et 3 personnes toujours portées disparues, dont 2 enfants.
7h-9h, Europe 1 Matin.
C'est l'heure de l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Alors Alexis, Gabriel Attal a annoncé que le projet de loi sur l'aide à mourir serait examiné à l'Assemblée à partir du 27 mai. Date, dites-vous Alexis, le 27 mai qui n'a pas été choisi au hasard.
Le 27 mai, c'est évident Dimitri. 15 jours avant les élections européennes qui auront lieu le 9 juin. Mais c'est plus une grosse ficelle, c'est un câble de marine. Depuis des semaines, l'agenda parlementaire était désespérément vide. Emmanuel Macron, qui procrastinait depuis des mois, sort soudain de son chapeau le fameux projet et il programme son examen. Pas 2 mois avant ou 2 mois après le scrutin, non, pile au moment qui garantit que la fin de la campagne, là où se cristallisent tous les votes, sera dominée par cette thématique de la fin de vie. Alors bien sûr, on nous jouera que le calendrier parlementaire était scrupuleusement respecté. Mais enfin, on ne fera croire personne que tout ça, c'est une pure coïncidence. Le plan, il n'y a pas besoin d'être très fin stratège pour le décrypter. De toute façon, avec les macronistes, voyez, l'Ukraine, c'est toujours la même chose. Il s'agit de créer une diversion sur un terrain réputé favorable, d'opposer une fois de plus l'élan émancipateur du progressisme aux forces obscures de la réaction, au passage de tenter de ringardiser la droite LR et son candidat François-Xavier Bellamy, dont la fin de campagne en 2019 avait déjà été percutée par la dramatique affaire Vincent Lambert. Mmh. Et finalement, il s'agit d'essayer de rejouer, à quelques jours du scrutin européen, l'épopée glorieuse et triomphale de l'inscription de l'IVG dans la Constitution, qui, d'un point de vue politique, n'a eu qu'un seul défaut, celui d'arriver trop tôt.
Et vous pensez que, Alexis, sur la fin de vie, le scénario IVG peut se rejouer à l'identique?
C'est un peu tôt pour le dire, mais enfin, il me semble que les choses ne prennent pas vraiment ce chemin. D'abord, j'observe l'embarras palpable d'Emmanuel Macron, qui vient nous expliquer, contre l'évidence même, que sa loi dite pudiquement d'aide à mourir ne prévoirait ni le suicide assisté, ni l'euthanasie. Enfin, de qui se moque-t-on? Qu'est-ce que s'administrer à soi-même une substance létale qui vous a été médicalement prescrite, si ce n'est du suicide assisté? Et qu'est-ce que confier ce geste à une personne volontaire, un médecin ou un infirmier, si ce n'est une euthanasie? Pourquoi Emmanuel Macron ne veut-il pas employer les mots? C'est peut-être parce qu'il pressent que la chose est loin de faire l'unanimité. D'ailleurs, et c'est le second point, les oppositions se manifestent avec une grande vivacité. Il y a les oppositions religieuses tout d'abord. Quand les évêques de France dénoncent avec une tromperie, un mensonge derrière l'utilisation du mot fraternité par le président, c'est quand même pas tout à fait rien. Opposition éthique ensuite de la part des professionnels de santé qui dénoncent en termes très vifs la brutalité du gouvernement, son mépris pour le travail des soignants, son manque de considération pour les personnes vulnérables et âgées. Tout ça, sont des voix qui portent et qui méritent le respect. Et il y en aura d'autres qu'on commence à entendre dans quasiment tous les partis politiques. Alors, elles ne suffiront sans doute pas à inverser le sentiment d'une opinion très majoritairement acquise à l'euthanasie. Mais enfin, ce ne sera pas, si j'ose dire, la promenade de santé que fut l'inscription de l'IVG.
Mais à la fin, vous pensez, Alexis, que le gouvernement tirera un bénéfice politique de cette séquence fin de vie?
Vous savez, il me semble que c'est toujours dangereux de jouer avec la mort. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Quand on parle d'euthanasie, mais ça vaut aussi pour l'intervention au sol en Ukraine, on parle bien de mort. Mort potentielle de jeunes soldats français en Ukraine, mort bien réelle de personnes souffrantes, dépendantes et âgées dans les hôpitaux. Et donc, jouer avec des questions aussi graves, dans l'espoir de limiter la casse aux élections européennes, pour gagner quelques petits pourcents, très franchement, je ne sais pas si ça peut marcher. En vérité, j'y crois guère et les sondages ne vont pas tellement dans ce sens. Mais ce que je sais, c'est que pour beaucoup de Français, ce petit jeu est indécent.
L'édito politique sur Europe 1, merci beaucoup Alexis Brézet. La une du Figaro ce matin, elle est consacrée justement à la fin de vie. Les soignants s'élèvent contre la loi Macron. Merci beaucoup Alexis.
Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h55 et Europe 1 vous accompagne toute la journée. Nous sommes le mardi 12 mars.
Et nous fêtons ce jour bienheureuse Justine, moniale bénédictine. Elle vécut au 14e siècle une partie de sa vie dans une forêt, dans le silence et la pénitence. Rendez-vous compte, on s'y verrait presque. Bon réveil avec Europe 1, au programme de la prochaine heure. Avec Emmanuel Ducrot, on parlera de cette affaire de la photo de Kate Middleton, si dérisoire, si importante. Mais pourquoi donc avoir truqué cette fameuse photo? Dans quel but? Dans quelle intention? Pour dissimuler quoi? Les théories du complot tournent à plein régime sur les réseaux sociaux. On verra ça avec Emmanuel. Dans un quart d'heure, face à Sonia Mabrouk ce matin, invité de la grande interview Europe 1 CNews, le député socialiste de l'Essonne, Jérôme Guedj. La météo, le journal, dans un instant sur Europe 1. Nous sommes le mardi 12 mars. Bon réveil à vous, il est 8h.
Europe 1 matin.
7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Et à la une, la bataille sur la fin de vie, bel et bien lancée. Les professionnels de santé s'y opposent alors que la loi Claeys-Leonetti sur les soins palliatifs, elle n'est toujours pas pleinement appliquée. Explication dans un instant sur Europe 1. Débat et vote symbolique ce jour sur l'aide française à l'Ukraine à l'Assemblée nationale et au Sénat. Pari risqué pour les macronistes qui tentent de jouer les gentils contre les méchants. Le Rassemblement national est accusé par l'exécutif d'être la courroie de transmission de Vladimir Poutine en France. Également dans ce journal, plus d'autonomie pour la Corse avec une révision constitutionnelle en perspective. Et puis, chose promise, chose due, Gabriel Attal a confirmé hier aux habitants du Pas-de-Calais, victimes des inondations, d'importants travaux à venir pour prévenir à l'avenir. 8h10, juste après ce journal, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous venez de le dire, au cœur de l'actualité aujourd'hui au Parlement, le plan d'aide à l'Ukraine. Et Jordan Bardella vient d'annoncer que le RN allait s'abstenir. Qu'en est-il des socialistes? Notre invité, le député PS Jérôme Guedj, à tout à l'heure.
Europe 1.
Le journal de 8 heures sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Emmanuel Macron voulait une loi de fraternité, mais l'aide à mourir se heurte pour le moment à de vives critiques. La vraie fraternité n'est pas de donner la mort, mais de donner la main, dit le sénateur LR Bruno Retailleau, estimant qu'il ne faut pas de nouvelles lois, mais de nouveaux moyens pour garantir l'accès de tous aux soins palliatifs. Des soins pour lesquels le gouvernement a prévu de doubler ses investissements d'ici 10 ans. La ministre de la Santé, Catherine Vautrin, l'a rappelé hier soir. Et il y a urgence, Yasmine Akatou. 21 départements en sont totalement dépourvus.
Oui, comme les Ardennes, les Pyrénées-Orientales ou encore la Corrèze. Dans ces départements dépourvus d'unités de soins palliatifs, les malades qui doivent être pris en charge le sont par des équipes mobiles qui se déplacent à domicile ou à l'hôpital, mais dans un service qui n'est pas spécialisé. Il s'agit alors d'une prise en charge dégradée qui n'est pas à la hauteur des traitements dont pourraient bénéficier les malades, regrette Olivier Polidori. Il est médecin dans une équipe mobile de soins palliatifs dans l'Indre.
Certains soins ne pourront pas forcément être faits ou l'expertise ne sera pas aussi bonne comme les personnels en unité de soins palliatifs. Pour la douleur, nous utilisons de nombreux traitements antalgiques, mais certains ne sont maîtrisés et utilisés que dans les CHU. Donc il y a des fois une forme de manque d'accès à certains soins.
En France, 7500 lits sont consacrés à la prise en charge des personnes en fin de vie. Cela représente 2,8 lits pour 100 000 habitants. Il faudrait au moins 5 lits pour 100 000 habitants pour répondre aux besoins des malades.
Yasmine Akatou, l'accompagnement en soins palliatifs d'autant plus important qu'il peut faire changer d'avis ceux qui ne voient que la mort comme issue. Écoutez le témoignage du docteur Ségolène Perruccio, la vice-présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Elle était l'invitée d'Europe 1 Matin.
Il y a encore très peu de temps, on a accueilli dans le service un patient atteint d'une maladie de Charcot. Il est venu chez nous parce qu'il demandait à mourir. Il a bien sûr réitéré cette demande. Au bout de quelques jours, elle a complètement cédé. On l'a regardée comme une personne, on l'a écoutée d'abord dans ses souffrances, dans ses difficultés. On l'a rassurée peut-être sur les conditions de sa mort et qu'on serait à ses côtés et qu'on ne le laisserait pas s'étouffer ou ce genre de choses qui évidemment font très peur. On sait qu'on est capable, on sait le faire, d'accompagner les gens correctement pour peu qu'on nous en donne les moyens. Bien sûr, il y a tous les médicaments, c'est notre compétence, c'est notre expertise, mais il faudrait remettre plus d'humanité dans le soin.
Docteur Ségolène Perruccio ce matin sur Europe 1, interview intégrale à retrouver sur europe1.fr.
Il est 8h03, Volodymyr Zelensky, optimiste, l'avancée russe a été stoppée, a dit hier soir le président ukrainien.
L'envoi de troupes occidentales n'est donc pour l'heure pas nécessaire, a-t-il confirmé, mais le soutien de la France, lui, reste capital. L'Assemblée nationale doit d'ailleurs se prononcer aujourd'hui sur l'accord bilatéral signé entre Paris et Kiev. Un vote symbolique, mais avec des intentions très politiques. À 4 mois des élections européennes, le président veut tendre un piège russe au RN, notamment le Rassemblement national, dont le président Jordan Bardella annonce à l'instant, on vient de l'apprendre, que son parti s'abstiendra. Écoutez.
Nous sommes opposés, c'est contenu dans le texte, dans l'accord de sécurité qui fonde la déclaration du Premier ministre cet après-midi. Je suis et nous sommes opposés à toute forme d'élargissement parce que l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne non seulement fragiliserait les économies européennes, on en a beaucoup parlé avec la question de la concurrence déloyale sur nos agriculteurs, mais aussi pourrait accroître le risque d'escalade à partir du moment où nous devrions une assistance militaire à un pays en guerre au sein de l'Union. Donc, pour moi, c'est une ligne rouge.
Jordan Bardella interrogé ce matin sur France 2. Un pas de plus vers l'autonomie de la Corse. Les élus de l'île de Beauté et le ministre de l'Intérieur sont tombés d'accord cette nuit sur les termes précis de ce statut particulier en vue d'une inscription dans la Constitution. Écoutez Gérald Darmanin.
La présente écriture constitutionnelle prévoit donc la reconnaissance d'un statut d'autonomie pour la Corse au sein de la République qui tient compte de ses intérêts propres lié à son insularité méditerranéenne, à sa communauté historique, linguistique, culturelle, et ayant développé un lien singulier à sa terre. Les règles nationales, qu'elles soient de nature législative ou réglementaire, pourront être adaptées par la collectivité de Corse. L'urbanisme, le foncier, la collectivité pourra donc fixer ses règles propres indépendamment des règles nationales.
Gérald Darmanin au micro européen d'Alexandre Chauveau. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune en visite d'État à Paris fin septembre, début octobre, annonce hier de l'Elysée alors que cette visite a été plusieurs fois reportée sur fond de tension entre nos deux pays.
Et vous écoutez Europe 1 Matin, il est 8h06.
Dans le Gard, les recherches se poursuivent. 3 personnes dont 2 enfants de 4 et 13 ans sont toujours portées disparues.
Hier matin, un corps qui pourrait être celui de leur père a été retrouvé. Par ailleurs, un homme de 70 ans est toujours recherché en Ardennes. Ardèche, à Saint-Martin-de-Valamas. Ces derniers jours, au moins 5 personnes ont perdu la vie à cause des intempéries.
Et prudence ce matin sur le littoral atlantique. Les grandes marées ont déjà entraîné d'impressionnantes et soudaines inondations ces derniers jours.
Des marées d'équinoxe qui font aussi gonfler les rivières dans le Pas-de-Calais. Encore de l'eau, les sinistrés n'en peuvent plus. Un ras-le-bol que Gabriel Attal a tenté d'apaiser hier après-midi lors de sa 3e visite sur place. Le Premier ministre a annoncé que les délais de paiement des assureurs seront divisés par 2. 10 millions d'euros supplémentaires vont être débloqués pour la reconstruction d'équipements publics, chantiers qui seront suivis par un préfet délégué. Alors qu'en disent les habitants? Reportage à Saint-Étienne-aux-Monts près de Boulogne-sur-Mer du correspondant d'Europe 1, Lionel Gougelot.
Sans réponse de son assurance depuis le mois de novembre, Annie s'est résignée à engager elle-même les travaux de rénovation de sa maison noyée cet automne sous 70 cm d'eau.
Parce que je suis assistante familiale et j'ai pas envie de mettre les enfants dans une maison pitoyable. Alors je rénove comme je peux avec mon mari. C'est déjà presque 10 000 euros que j'ai avancé. C'est anxiogène quoi. On survit. Depuis le mois de novembre, on survit.
Dans ce quartier, Gabriel Attal a promis que des travaux seront rapidement menés pour empêcher les prochains débordements de la Liane. André et Amélie espèrent que les engagements seront tenus.
Tous les ministres sont toujours à l'écoute. Après, on verra les actes et les retours, à savoir si on sera encore en sécurité.
De toute façon, on peut que espérer parce qu'on doit reconstruire, mais on souhaiterait vivre dans de bonnes conditions avec notre famille, élever nos enfants sereinement en fait.
Mais le traumatisme des inondations est tel que certains s'imaginent déjà quitter définitivement le quartier.
En fait, vous voyez, la simple goutte d'eau, là, c'est la peur. Donc, c'est le moral en fait qui prend un coup. Après, si ça va pas, après, comme on dit moralement, il faut partir.
Partir à condition d'en avoir tout simplement les moyens.
Lionel Gougelot. L'actualité économique ce matin, on l'apprend à l'instant, une nouvelle entreprise de l'ameublement dans la tourmente et peut-être des licenciements en vue. Maison du Monde annonce ce matin vouloir se séparer de 40 à 50 magasins d'ici 2026 sur un total de 340.
Je m'appelle Bond. James Bond.
Vous l'avez reconnu, forcément, un nom pareil.
James Bond, ouais.
Voilà, ça s'oublie pas et ça s'entend. La musique qui l'accompagne, on s'en souvient aussi.
Oui.
James Bond, espion fascinant, film culte, bande originale indémodable. Et elles sont toutes reprises dans le spectacle Bond Symphonique, c'est à l'affiche du Grand Rex ce week-end. Mmh. L'occasion aussi de mieux connaître l'histoire, parfois surprenante, vous allez l'entendre, de ces bandes-sons, Marie Jiquel.
L'extrait d'une comédie musicale ratée sur une communauté indienne. Arrangé par John Berry qui marie jazz et musique classique. Le thème de James Bond a changé l'histoire de la musique de film pour Samuel Sennet, le chef d'orchestre de Bond Symphonique.
On pourrait dire que La Guerre des Étoiles, que Indiana Jones ont des thèmes aussi iconiques. Mais en fait, James Bond est la licence la toute première à apporter le thème d'un personnage.
Un thème irremplaçable, mais pour chaque nouveau film, une chanson originale à la composition semblable.
Pour avoir le suspense, c'est simple, c'est le demi-ton d'origine qui fait... Ce truc-là, là, on va régulièrement le retrouver. C'est ce demi-ton qui apporte le mystère.
Mais l'orchestre a sa petite préférence.
C'est Skyfall. Pas parce qu'elle est simple, parce qu'elle est incroyable en fait.
Un spectacle qui respecte toutes les traditions de James Bond, du nœud papillon noir à la boisson.
On va boire du dry martini au shaker, pas à la cuillère, avant chaque concert.
Tous envie de les revoir maintenant. Vous nous avez donné
envie de chanter aussi. On connaît. C'était quoi votre BO préféré?
Moi, c'est Skyfall.
Plutôt GoldenEye. Mais oui. Mais alors, on a appris que c'est Cillian Murphy, vous savez, l'acteur qui incarnait Oppenheimer, qui pourrait être le prochain James Bond. Voilà.
C'est arrivé hier.
Merci beaucoup, Fanny Marceau.
Merci.
C'était
à
votre
vous.
Journal. Allez, dans un instant, restez avec nous. Sonia Mabrouk reçoit le député de l'Essonne, Jérôme Guedj, sur Europe 1.
7h, 9h,
Europe 1 Matin.
Tout de suite sur Europe 1, Jérôme Guedj est l'invité de Sonia Mabrouk.
Bienvenue et bonjour Jérôme Guedj.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Et merci de votre présence. C'est votre grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes Monsieur Guedj, député socialiste de l'Essonne. Vous êtes secrétaire national à la laïcité au Parti Socialiste, on va en parler. Et vous avez beaucoup travaillé également sur la question de la vieillesse, de nos aînés et donc de la fin de vie. Mais tout d'abord, l'Assemblée nationale se penche aujourd'hui sur la stratégie française d'aide à l'Ukraine lors d'un débat suivi d'un vote symbolique. Alors cette aide, je le dis à nos téléspectateurs et auditeurs, consiste à reprendre les termes de l'accord bilatéral de sécurité signé entre la France et l'Ukraine. Il y a quelques instants, Jordan Bardella vient de réagir annonçant que le RN allait s'abstenir sur ce vote. Tout d'abord, votre réaction, une abstention sur ce vote, comment vous l'analysez?
On ne s'abstient pas quand il est question d'apporter un soutien qui doit être indéfectible
aux Ukrainiens, au gouvernement ukrainien, au peuple ukrainien, qui depuis 2 ans est victime d'une agression qui nous concerne parce qu'elle est sur le sol européen. Et donc, on ne peut pas dire « cela ne nous regarde pas ». L'abstention, c'est une sorte d'indifférence au moment où il faut faire un choix. Cet accord de coopération, nous allons l'approuver, nous, socialistes, cet après-midi, pour ce qu'il est, un accord qui réaffirme ce soutien et notamment qui répond à la demande que Vladimir Zelensky était venu exprimer lors de cette rencontre avec Emmanuel Macron, celle d'un soutien militaire. Ce faisant, et je le dis tout de suite, cela n'est pas un quitus ou un chèque en blanc donné aux paroles hasardeuses et probablement maladroites d'Emmanuel Macron quand il a mis sur la table la possibilité d'une intervention militaire et d'un soutien des troupes françaises à une intervention militaire.
C'est-à-dire, Jérôme Gage, vous votez, mais vous demandez des clarifications, vous posez des conditions à une aide qui ne serait pas sans limite, si je vous entends bien.
Appelez ça clarification ou condition, nous nous en tenons au périmètre de l'accord tel qu'il a été...
Précisons de quoi il s'agit dans cet accord, c'est l'aide de 3
c'est
milliards.
C'est un renforcement d'une aide de 3 milliards, c'est un soutien diplomatique, c'est un soutien de formation, oui. Notamment aux militaires, à la frontière notamment avec la Biélorussie. C'est la mobilisation de l'appareil de production d'armement, puisque pour l'instant, nous utilisons des munitions et des armes qui étaient destinées à l'armée française, et donc une mobilisation de l'appareil de production pour pouvoir répondre à la demande des Ukrainiens.
Mais avec une ligne
sans munitions, sans armement, ils ne peuvent pas résister comme ils le font courageusement à l'Ukraine.
Mais avec et la ligne rouge, pour évidemment, les socialistes, c'est... Est-ce que vous pouvez la nommer ?
Ah ben, la ligne rouge, elle est claire. Ce n'est pas la validation de la piste qu'Emmanuel Macron a lancée, fidèle, vous savez, à ses coups de sonde. Alors, on a bien vu depuis Sébastien Lecornu, ce matin dans Le Parisien, rétropédale, en expliquant qu'en aucun cas, cela ne signifie l'envoi de troupes françaises sur le sol. Mais vous avez bien vu la réaction de la communauté internationale, les partenaires allemands, les États-Unis et Vladimir Zelensky lui-même, qui a dit « mais à aucun moment nous n'avons demandé la présence de soldats français sur le sol ukrainien ». Ce que nous vous demandons, et que la France, malheureusement, n'a pas honoré avec la même intensité que les autres partenaires européens. La France est le 15e partenaire en termes de fourniture d'armement aux Ukrainiens. Il faut donc intensifier, c'est la demande des Ukrainiens. Ils ne demandent pas d'intervention militaire et il ne faut pas qu'Emmanuel Macron joue à cette ambiguïté stratégique qui est de toute façon toujours contre-productive quand on est dans un rapport de dissuasion. Face à nous, on a un dictateur, Vladimir Poutine, qui, entre deux guerres en Europe depuis 15 ans, cherche des pauses diplomatiques. Il y a eu la Tchétchénie, il y a eu la Géorgie, il y a eu d'abord la Crimée, le Donbass et l'ensemble de l'Ukraine aujourd'hui. On ne peut pas le laisser faire.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, le laisser faire ? Parce que là, nous sommes dans un entre-deux. Jérôme Gage, vous avez dit par exemple sur l'abstention du RN que c'est une indifférence. Certains estiment dans la majorité qu'aujourd'hui, aller plus loin, c'est même être pro-Poutine.
Mais vous avez raison. Cette indifférence, elle est coupable parce que elle masque une complaisance avec le régime de Vladimir Poutine.
Mais c'est le cas pour une partie de vos amis à gauche aussi. Je n'imagine pas tout à l'heure, on va voir leur position, que la France insoumise ou encore les communistes. Fabien Roussel ce dimanche nous disait en l'état, je ne voterai pas cet accord comme ça. Il est pro-Poutine ?
Je ne suis pas d'accord avec eux parce que dans des moments aussi paroxystiques, aussi essentiels, vous avez dit c'est un vote certes symbolique, mais c'est aussi une affirmation de principe. Et dans ces moments-là, on ne peut pas être dans l'ambiguïté. Voilà. Moi, je ne suis pas favorable à fournir des garanties de sécurité à Vladimir Poutine. C'est lui l'agresseur et l'Ukraine est l'agressée. Et toute formulation, toute expression qui entretiendrait une ambiguïté, même qui dirait qu'il faut se mettre autour de la table et négocier la paix. Mais négocier la paix, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire organiser un partage du territoire ukrainien.
Donc être pacifiste aujourd'hui, c'est être poutiniste.
Dans ce moment-là, on a l'aspiration de la paix. Mais la paix, dans ce cas particulier, elle est immédiate dès l'instant où Vladimir Poutine respecte l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Nous ne pouvons pas accepter une remise en question des frontières en Europe, parce que sinon c'est un précédent dont, je le redis, qui nous menacent directement. Nous, nous avons l'impression d'être à distance. Mais nos partenaires, nos amis suédois, nos amis... La guerre est sur le sol européen.
Parce que géographiquement, elle est aux confins de l'Europe. Hein,
oui,
si on connaît sa géographie comme vous la connaissez.
Oui, mais nous sommes sur le territoire européen. Et surtout, nous sommes sur un test qui est fait par Vladimir Poutine pour mesurer le degré de résistance des Européens. Et c'est d'autant plus important dans un moment, dans quelques mois, il y a les élections présidentielles aux États-Unis. Et ce qui se joue là, c'est la capacité des Européens à construire ce que nous appelons de nos voeux depuis des années, à savoir la construction d'un pôle européen de défense.
Serpent de mer, vous le savez vous-même.
Qui puisse être.
Est-ce que vous croyez vraiment à une Europe de la défense?
Mais nous n'aurons pas le choix, parce que imaginez l'hypothèse malheureusement envisageable d'une victoire de Donald Trump en novembre prochain aux États-Unis. Ses amis récemment au Congrès américain ont bloqué le versement d'aide financière à l'Ukraine. Ça veut dire, et il le dit de discours en discours, dans une sorte d'isolationnisme américain qui tourne le dos justement au partenariat stratégique qui a toujours fait de l'Europe le prolongement de la sécurité des États-Unis. À ce moment-là, il nous faudra, et il nous faut dès à présent, et c'est malheureusement un test fondateur pour nous que la situation que nous vivons là, la construction de cette autonomie de la défense européenne, distincte du bouclier stratégique des États-Unis, et donc un renouveau des alliances militaires sur le territoire européen.
Jérôme Gage, autre actualité, il y a eu beaucoup, beaucoup de réactions après l'annonce d'Emmanuel Macron sur le projet de loi de la fin de vie. Une partie des soignants importantes évoque un projet qui va à l'encontre des valeurs de soins. Très important ce qu'ils disent. L'Église dénonce une tromperie. Pas seulement d'ailleurs, les religions sont contre. Vous le réclamiez depuis longtemps, mais ce matin, est-ce que vous pouvez nous dire ce que veut dire l'aide à mourir d'Emmanuel Macron? Beaucoup y voient l'euthanasie, le suicide assisté. Est-ce qu'il n'y a pas une duperie sur les mots?
Alors, je vais vous parler franchement. Emmanuel Macron aime la sémantique. Et bon, d'abord, il y a une bonne nouvelle. C'est que nous aurons enfin un débat parlementaire sur ce sujet. Il est réclamé par 80 à 90% des Français. Alors, vous savez qu'on laisse les clés du camion, pardonnez-moi l'expression, aux parlementaires. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'après avoir tergiversé, repoussé de 6 mois en 6 mois l'arrivée de ce débat au Parlement, il aura lieu. Le président Macron a donné des lignes directrices. À la lecture de son interview dans La Croix et Libération, cela pose plus de questions que cela n'apporte de réponses, et c'est donc aux parlementaires d'apporter ses réponses. Et aux parlementaires seuls, que chacun participe au débat, les soignants doivent avoir leur parole qui est entendue, les courants philosophiques ou religieux doivent avoir leur parole qui est entendue, mais vous l'avez rappelé, je suis secrétaire national à la laïcité, et donc cette voix peut s'exprimer dans le débat, mais ce ne sont pas les courants religieux qui font la loi dans notre pays. Les questions auxquelles nous allons être confrontés, les choses se nichent dans les détails. L'aide à mourir suppose d'abord le renforcement des soins palliatifs. Tout le monde est d'accord, ce sera consensuel.
Non, d'accord, mais monsieur Jérôme, est-ce que ce n'était pas l'urgence avant le projet de loi? Pardonnez-moi juste de vous donner quelques détails que vous connaissez. Il y a tous les jours, disent nos soignants, 500 Français qui n'ont pas accès aux soins palliatifs dont ils auraient besoin.
Pendant 60% des Français qui pourraient prétendre aux soins palliatifs n'y ont pas accès.
Trois patients qui meurent en France, là, maintenant, sans avoir eu accès aux soins palliatifs.
Nous avons tous malheureusement connu des situations dans lesquelles on a vu la faiblesse de l'engagement sur les soins palliatifs, qui d'ailleurs renvoie à des problématiques plus globales, sont celles des déserts médicaux, qui sont celles des moyens qui sont donnés à l'hôpital, qui sont celles, notamment, parce qu'on l'oublie, mais 150 000 résidents d'EHPAD meurent chaque année. Et l'indigence des soins palliatifs dans les EHPAD aujourd'hui est un problème qui devrait largement nous questionner. Donc oui, on parle toujours des 21 départements qui sont dépourvus d'unités de soins palliatifs. Là, c'est une politique de santé publique, c'est une politique d'hôpital public. Ce sont des moyens.
Où est-elle?
Ah ben, là, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Elle n'est pas dans les projets de loi de financement de la sécurité sociale qui sont adoptés à coup de 49.3 année après année et dans lequel il n'y a pas un changement de braquet dans le renforcement de ces moyens. Et donc, si cette loi constitue une sorte de droit opposable aux soins palliatifs, sur ce volet-là, nous la soutiendrons, évidemment. Mais il y a aussi cette demande. Alors, le président Macron dit « Je ne définis ni une liberté ni un droit. J'ai une différence sémantique avec lui. » Cette liberté ultime, ce droit à choisir sa mort dans les conditions qui doivent être très définie. Et là, moi, je suis d'accord avec les lignes rouges qui ont été mises. Il faut être majeur, il faut pas que ça concerne une maladie psychiatrique ou une maladie neurodégénérative.
Bien sûr que ces lignes rouges resteront des garde-fous absolus. Malheureusement, on a vu que dans d'autres pays, eh bien, à chaque fois, c'est repoussé, repoussé. Et on est arrivé à des cas où des jeunes gens dans des situations d'extrême, solitude.
On a cette situation de cette jeune fille en Belgique, victime des attentats.
Alors, vous pouvez être sûr qu'en France, ça n'arrivera pas.
En tous les cas, moi, à aucun moment, je ne voterai un texte dans lequel il y a la possibilité de recourir à quelque forme que ce soit d'aide active à mourir dans des situations de détresse psychologique, psychiatrique ou de maladie neurodégénérative, typiquement une personne touchée par la maladie d'Alzheimer. La question du consentement de la personne est cruciale. Par contre, il y a un point inédit qui a été posé dans l'interview d'Emmanuel Macron, qui potentiellement peut constituer pour moi une ligne rouge, c'est qui procède à l'injection létale. Si c'est une forme de, c'est un suicide assisté si on donne à la personne la possibilité elle-même de prendre le cachet létal, la possibilité pour les médecins, mais il introduit. Et c'est totalement nouveau. Moi, j'ai participé au groupe de travail transpartisan autour d'Agnès Firmin-Lebaudeau pour justement essayer de fabriquer du consensus. Et ce sujet-là n'a quasiment jamais été abordé. La possibilité pour un tiers, pour un proche, pour un volontaire. Et ça, cette question, pour moi, elle est très problématique parce que ça signifierait qu'on inverse, qu'on met une pression terrible sur un proche, mon meilleur ami, mon fils, mon conjoint.
La pression sur les soignants, mais il est vrai que pour cette tierce personne qui ne serait pas dans le domaine.
Elle n'est pas dans le domaine médical. Elle n'a pas d'accompagnement psychologique, psychiatrique. Ah, mais c'est pour ça que ça, je vous dis, c'est pour ça que le débat parlementaire, il va être intéressant. Vous dites, est-ce qu'il sera apaisé? Je le souhaite. Voilà. Moi, je fais le pari de l'intelligence collective. C'est comme ça que je conçois mon mandat de parlementaire. C'est évidemment des textes sur lesquels nous avons tous les uns et les autres une sorte de liberté de conscience et de liberté de vote. Il y a des positions disparates au sein de mon groupe socialiste. Il y a des gens qui sont plus ou moins opposés au principe même de l'aide active à mourir, même si très largement, majoritairement, nous y sommes favorables. C'est donc le cadre qui va être déterminant. L'autre élément qui est important, c'est la définition de ce qu'est un pronostic vital engagé. Est-ce que c'est à court ou à moyen terme? Tous ces sujets-là, il faut qu'on les aborde, qu'on entende la parole des soignants, mais qu'on entende aussi quand même cette aspiration dans le pays. Je vous le disais, on a tous vécu ces moments de situation des proches, avec des amis. Je souhaite qu'on puisse consacrer cette liberté ultime.
Mais vous voyez que ça arrive juste avant les élections européennes. Est-ce que toutes ces réformes sociétales, certains parlent d'une chevauchée sociétale, est-ce qu'elle est aujourd'hui à des fins, j'allais dire, pour donner parfois de nouveaux droits, ou est-ce que vous y voyez une diversion politique?
Alors, moi j'ai l'optimisme de la volonté. Je pense qu'on a besoin de conquérir de nouveaux droits dès l'instant, en plus, où ils ne portent pas atteinte aux droits des autres. Vous savez, c'est le même débat que celui qu'on a eu au moment du mariage pour tous. Des gens qui pensaient que c'était une remise en question civilisationnelle. Le fait d'élargir et de conquérir de nouveaux droits ne remet pas en question les droits de ceux qui ne veulent pas y recourir.
Et on touche à quelque chose de très intime sur lequel vous travaillez, la vieillesse, nos aînés, la fin de vie. Alors, est-ce qu'il ne faut pas y aller plus qu'une main tremblante avec le corps tremblant pour en parler?
Il faut y aller justement avec cette aspiration l'humanité, une forme d'humanisme, de respect de la liberté. Mais puisque vous évoquez la question de la vieillesse, je saisis la balle au bon. D'abord en disant qu'il faut qu'on évite de lier les deux termes, même si on pourrait s'inquiéter de cette situation paradoxale dans laquelle nous sommes. On va légiférer, et j'y suis favorable, vous l'avez compris, sur la fin de vie. Sur ce que certains appellent, je n'aime pas moi l'expression, le droit à mourir dans la dignité. Je n'aime pas cette expression.
Nous sommes d'accord. Qu'est-ce que voudrait dire la dignité dans cette expression?
Exactement. Mais par contre, je fais un parallèle peut-être en jouant sur les mots. Je m'insurge du fait que dans le même temps, on ne soit pas capable de légiférer et de dégager des moyens suffisants pour le droit à vieillir dans la dignité. La situation aujourd'hui, dans les EHPAD, dans les services à domicile, avec une insuffisance de personnel, avec des familles qui sont désemparées quand survient la perte d'autonomie, quand survient la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, des sujets qui posent la question des vulnérabilités et de la place des fragilités dans la société. Depuis des années, tout gouvernement confondu, pour être tout à fait honnête, il y a une sorte de déni de la réalité de cette transition démographique, de cette révolution de la longévité. Et si on veut éviter une crise du vieillissement, alors il faut légiférer. Emmanuel Macron avait promis, rendez-vous compte, en 2018, une loi pour la fin 2019. À la fin de l'année dernière, nous avions obtenu, arraché de haute lutte, une promesse d'Elisabeth Borne d'avoir cette loi enfin déposée avant la fin du premier semestre 2024. Gabriel Attal est arrivé Premier ministre dans son discours de politique générale, plus un mot sur cette promesse d'une loi de grand âge. Ça, c'est un véritable scandale parce que derrière, c'est à la fois la situation des familles avec des problèmes de reste à charge pour payer la PAD. C'est un problème d'emploi, d'attractivité de ces métiers, de ces premières lignes qui sont si précieuses, souvent des femmes dans les métiers du soin, du lien, de l'accompagnement, pour lesquels nous ne les reconnaissons pas et il manque cette impulsion.
Il faut leur rendre hommage.
Il faut évidemment leur rendre hommage, mais le meilleur hommage que la nation peut leur rendre, c'est de valoriser ces métiers, de mieux les payer, de créer des postes supplémentaires, parce que sinon on se retrouve avec un système qui est maltraitant institutionnellement, et là, c'est nous tous qui devons nous regarder dans la glace en disant nous sommes responsables de cette situation.
Monsieur Gage, on va bientôt arriver à la fin de cette interview. Tout autre sujet, vous faites partie de la commission d'enquête parlementaire autour des fréquences de la TNT pour la transparence pour nos auditeurs et téléspectateurs. Vous avez auditionné CNews, je le dis, les dirigeants et puis nous-mêmes, mes confrères Pascal Praud, Laurence Ferrari et moi-même, nous avons eu d'ailleurs un échange au cours de cette audition et je vous remercie d'être là ce matin parce qu'il en a été question. Je voulais simplement vous demander comment vous avez vécu ce moment, cette audition, et qu'est-ce que cela apporte plus largement aujourd'hui au débat, j'allais dire, démocratique dans notre pays ?
Moi, je suis attaché aux commissions d'enquête parlementaire. C'est une prérogative du Parlement pour creuser sur des sujets qui sont d'intérêt public. Celui qui est sur la table, ce n'est pas la question du groupe Bolloré. On va auditionner après-demain, demain, Vincent Bolloré. C'est la question du renouvellement des fréquences de TNT. Et une fréquence de TNT, c'est une autorisation qui est donnée par la puissance publique, via l'ARCOM, à des exploitants privés. C'est donc un contrat. Et donc, on doit s'assurer du respect du contrat. Et dans ce contrat, il y a la question du pluralisme, de l'honnêteté et de l'indépendance de l'information. C'est donc des questions qu'il est légitime d'évoquer, et je le dis sur votre plateau, y compris de vérifier celles et ceux qui ont été rappelés alors par le gendarme de l'audiovisuel, l'ARCOM, et il s'avère que le groupe auquel vous appartenez est celui qui a été le plus rappelé à l'ordre. Et donc, poser la question de savoir pourquoi il y a eu ces rappels à l'ordre.
Entre rappels à l'ordre et sanctions, pardon.
Il y a des rappels à l'ordre.
C'est important d'être précis.
Non, il y a eu des rappels à l'ordre, encore très récemment.
Et qui n'ont pas donné lieu, on ne va pas rentrer dans un débat.
On ne va pas rentrer dans les détails.
Mais
ce que je veux dire, c'est qu'une commission d'enquête, c'est un moment légitime. Il faut que ce soit efficace. Voilà.
Est-ce que ça a été serein ?
J'ai connu des commissions d'enquête. J'ai participé précédemment à une commission d'enquête sur les fédérations sportives confrontées aux violences sexistes et sexuelles ou aux problèmes de corruption. J'ai connu des commissions d'enquête plus sereines et qui n'avaient pas une sorte de vocation de procès d'intention avant les conclusions de la commission d'enquête. Voilà. Mais après, chacun apprécie la manière dont il conduit une commission d'enquête. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les conclusions qui en seront tirées, parce que je suis attaché à la liberté d'expression. Moi, vous savez, je suis un socialiste, un universaliste républicain, et avec quelques piliers. On n'a pas eu le temps de parler de la laïcité, c'est bien dommage, mais dans ces piliers, il y a la laïcité, il y a la liberté d'expression, il y a la dispute apaisée dont on a besoin. Il peut y avoir des opinions. Est-ce qu'il peut y avoir des chaînes d'opinions ? Ça, c'est un débat que je trouve intéressant, et de savoir est-ce que certaines chaînes sont devenues des chaînes d'opinion. Je trouve ça intéressant. Il y a des radios qui sont des radios d'opinion, mais est-ce qu'on peut le faire sur une fréquence publique qui a été donnée par la puissance publique ? Ce débat, pour l'instant, il n'est pas tranché. Mais ce n'est pas le rôle de la commission d'enquête, c'est le rôle du législateur sur la base de ses conclusions.
Comme vous avez dit un mot très important, pluralité, et c'est le cas ici même et par votre présence. Donc je vous remercie pour cet entretien, monsieur Guerre.
Merci
à vous. Je vous dis à bientôt pour parler des autres sujets.
Bah oui, il faudra qu'on reparle de laïcité quand même, c'est un vrai sujet. Merci.
Merci Sonia Mabrouk et Jérôme Guedj. Vos signatures Europe 1 dans un instant.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Et il est l'heure de retrouver Gaspard Proust. Bonjour Gaspard.
Bonjour les matinaliers, les matinalières.
Bonjour.
Attendez, je récupère votre texte,
oui,
Gaspard.
Oui,
je signale
sinon,
que Jérôme...
la relance, c'est compliqué.
Et je signale que Jérôme Guedj, l'invité de Sonia Mabrouk, il y a quelques instants, est resté pour vous écouter.
Tout
comment
ça
va, exprès. Gaspard?
Alors, bah écoutez, ce week-end, Anissa le confirmera, il a fait mauvais. Qu'est-ce qu'on fait quand il fait mauvais ? Quoi de mieux qu'un bon one-man show ?
Alors, vous avez regardé quel artiste ?
Vous savez à quel point c'est rare, les artistes qui débutent tout de suite devant des salles blindées. Et pourtant, ce dimanche, est-ce que vous reconnaissez cette ambiance ?
Merci, cher Babou. Merci.
Souvenez-vous bien de son nom, Valérie Ayer, quelle régalade.
À ce point-là.
Alors c'est vrai que ça se passait à Lille, on sait que bon, Lille, public du Nord, c'est un très bon public.
Oui.
Déjà le nom du spectacle, formidable.
Ah, c'était quoi le nom ?
Besoin d'Europe. Tout de suite, tu peux pas t'empêcher de penser à...
Besoin de rien en
Tout de suite, ça te rappelle les heures les plus fluo de notre histoire.
Bah, racontez-nous un peu. Alors.
Bah, comme dans tout One Man Show qui se respecte, il y a une première partie. Et là, en ce moment, la première partie qui fait fureur dans tous les meetings, c'est Jordan Bardella. C'est le chauffeur de salle à la mode. Alors honnêtement, je pense qu'en ce moment, les ventriloques, les magiciens, les clubs de sosie de France, ils ont tous une poupée à l'effigie de Jordan Bardella chez eux, dans laquelle ils passent leur temps à planter des aiguilles. Et qu'est-ce qu'il a de plus que nous? Et figurez-vous qu'ils ont trouvé un surnom chez Macron dont ils sont très contents.
Ah oui, lequel?
Monsieur Bardella, Monsieur Selfie.
Et c'est vrai que c'est malin.
Monsieur Selfie.
C'est vrai parce que s'il y a une chose qu'on pourra jamais reprocher à Gabriel Attal, Macron, Dupond-Moretti, c'est d'avoir jamais au grand jamais fait un selfie avec des militants. De mémoire d'observateur, faire un selfie avec des électeurs, ça s'est jamais vu dans toute l'histoire du macronisme.
Bon, vous ironisez quand même.
Je vous jure que c'est vrai. C'est même tout le paradoxe du macronisme. Le macronisme a inventé le start-upper qui n'a pas de wifi. Après Rémi sans famille, Gabi sans selfie. En fait, un macroniste, c'est un amiche qui bosse dans la tech.
Mais qu'est-ce qui vous a marqué dans le meeting de Valérie Ayé?
Bon, déjà, à un moment, François Bayrou a parlé. Et comme j'ai vu le meeting en replay, j'ai fait une découverte stupéfiante.
À laquelle?
Eh ben, lorsque François Bayrou parle, si tu fais vitesse de lecture x2 sur YouTube, t'arrives à un débit de langage normal. C'est très, très étonnant.
Alors, puis il y a eu l'arrivée de Valérie Ayé sur l'estrade.
Ah ouais. Alors, je vous laisse. Alors, l'entrée, je vous laisse juger par vous-même. Ambiance. C'est Taylor Swift de la Mayenne. Elle se serait jetée dans la foule, elle aurait fait une empreinte comme sur Hollywood Boulevard. Mais juste qu'au lieu d'avoir les empreintes des deux mains, elle aurait aussi l'empreinte des deux pieds et du pif.
Et puis
dès qu'elle a ouvert la bouche, premier scud de la soirée, attention.
J'ai entendu dire, aux premières heures de cette campagne, que je serais un choix par défaut. J'ose espérer que l'on ne dit pas ça parce que je suis une femme.
Formule magique. Quand t'es une femme qui fait de la politique, c'est Valérie Ayé, c'est le Harry Potter de Renaissance. Abracadabra, si tu dis que je suis nul, transforme-toi en misogyne, citrouille. Et après ce scud, ça a été une enfilade de lieux communs. Alors, on veut une Europe plus libre, plus forte, le patriotisme c'est la guerre, l'unité c'est la paix, vivre ensemble c'est la joie. En fait, l'ENA, c'est le poudlard qui forme les magiciens de la technocratie. T'apprends à faire des formules creuses, tu vas lancer comme des sorts du haut d'une estrade, en espérant qu'à force de les répéter, tu vois, ça va finir par se passer. Mais attendez, c'est pas tout, parce qu'après le scud, on est resté dans la magie de Noël.
Ah oui, alors racontez-nous.
Mon engagement, c'est celui d'une femme qui a grandi dans la ferme de ses parents.
Je suis né dans une ferme. Manquait plus qu'elle nous dise que c'était dans une étable entre le bœuf et le petit âne gris. On apprenait que son arrière-grand-père, c'était Joseph de Nazareth. Et puis, sentant que c'était bientôt la fin du meeting, elle était un peu obligée de sortir l'arme lourde. Et là, elle envoie l'ogive nucléaire, accrochez-vous.
Hier, Daladier et Chamberlain. Aujourd'hui, Le Pen et Orban.
Elle cite du Daladier, Dimitri.
Alors, et ça vous a choqué,
bah,
ça?
De vous à moi, quand elle a dit Daladier, tu sentais qu'elle savait pas très bien de qui elle parlait.
Vous pensez?
Oui, j'ai ouï dire que quand on lui a amené le texte, parce que tout est vérifié en amont, elle aurait dit « Non mais il y a une boulette, c'est pas Daladier, c'est Saladier. » Non, Valérie, c'est Daladier. Ah bon? Mais si c'est Monsieur Saladier, enfin, c'est pas l'inventeur de la vinaigrette, d'où l'expression tourner le vinaigre? Calme-toi, Valérie. Décidément, tu n'es pas cinquième choix par hasard. Mais c'était pas encore le sommet du max. Parce que là, sans filet, sans PowerPoint, accrochez-vous. Parce que là, elle est arrivée la blague de la soirée, la punchline. Je pense que même Rachida Dati n'aurait jamais osé. Écoutez bien.
L'Europe de la défense, chimère il y a 5 ans. Une réalité aujourd'hui. On l'a fait.
Alors, je peux comprendre, dans une salle blindée avec la moitié du public sous MDA ou LSD, on puisse se sentir pousser des ailes pour arriver à ce degré-là. Franchement, si elle nous dit que l'Europe de la défense existe, il y a moyen qu'au prochain meeting, elle nous avoue qu'elle a déjà marché sur Mars et qu'il y aura la créature de Roswell en guest star. Que dire d'autre sinon que...
Douce France, cher pays de mon enfant.
Merci Gaspard Proust.
Je vous en prie.
On termine sur cette note musicale. Merci, Billy est déjà parti. Voyons qu'il avait un train à prendre, je crois. Merci à vous, Jérôme Guest, d'être resté avec nous sur Europe 1. Merci, Sonia. On vous retrouve dès demain matin. Dans un instant, la revue de presse d'Olivier Delagarde. À tout de suite. L'heure de la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Alors, il y a des informations qui ont apparemment du mal, nous dites-vous ce matin, à remonter jusqu'à Paris.
Oui, c'est très étonnant parce que c'est une info qui, jusqu'à présent, n'a pas eu droit à une ligne dans la presse nationale. Pour être tout à fait honnête, les quotidiens bretons n'ont pas pris non plus tout de suite la réelle mesure des événements et ce n'est que ce matin que l'info fait le plus gros titre du Télégramme. Cela s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche, dans le quartier du Blonne, à Rennes. Pendant plus d'une heure, ce haut lieu du trafic de drogue a été le théâtre de véritables scènes de guerre. De 1h56 à 3h03 précisément, un commando d'une dizaine d'hommes cagoulés, portant d'épais gilets pare-balles et armés de Kalachnikov, ont mené une expédition punitive pour reprendre un point de deal. Plus d'une centaine de douilles ont été retrouvées sur place, raconte Claire Stess, Par miracle, deux hommes seulement ont été blessés, mais évidemment, les habitants sont totalement choqués. Dès hier, les lecteurs des pages locales de Ouest-France pouvaient lire le témoignage d'un octogénaire qui racontait avoir relevé plusieurs impacts de balles dans sa cuisine. C'est du jamais vu à Rennes. On a passé un cran dans l'échelle de la violence, affirme l'adjointe de la ville à la sécurité. C'est même du jamais vu en France, témoignent des policiers. Depuis les attentats du Bataclan, jamais une fusillade aussi longue et avec des fusils d'assaut n'avait été constatée.
Oui, ce matin, ce sont moins les scènes de guerre en Bretagne que celles en Ukraine qui préoccupent la presse.
Et surtout, les implications politiques à Paris. Qui soutient l'Ukraine? Le Parisien aujourd'hui en France pose très directement la question, en gros titre, parce que le Parlement va se prononcer aujourd'hui sur l'accord bilatéral passé avec Kiev. La majorité va évidemment voter pour, tout comme les socialistes, communistes et insoumis gardant une vieille tendresse pour les dictateurs et l'Union soviétique vont voter contre, mais tous les yeux seront tournés vers le RN qui n'a pas encore dit ce qu'il allait faire. En fait, s'ils étaient malins, ils nous coinceraient comme ils l'ont fait sur l'immigration, explique un ténor de la majorité aux Échos. Ils pourraient nous dire qu'ils sont opposés aux propos va-t-en-guerre du président, mais qu'ils votent pour le soutien à l'Ukraine, ce qui nous couperait l'herbe sous le pied du principal argument politique que l'on brandit pour l'instant dans la campagne des européennes. En attendant et avant même le scrutin, il y en a un qui a déjà voté contre le soutien à l'Ukraine, c'est le pape. François qui a appelé solennellement Kiev à avoir le courage de négocier, une déclaration qui fait tomber de l'armoire l'éditorialiste de la Croix. Et c'est pas souvent que le quotidien communiste... Qu'est-ce que je dis communiste? Catholique.
Catholique de gauche.
S'en
oui.
prend à ce pape. Mais là, quelle mouche a piqué François, écrit interloqué Isabelle de Golemin. Elle en appelle à Jean XXIII, qui dans l'encyclique Pacem in Terris écrivait qu'il n'y a pas de paix sans justice. À l'époque, il s'agissait de faire droit aux revendications des pays colonisés, mais cela vaut aussi pour l'Ukraine. La paix ne sera possible que si la Russie accepte une solution juste, affirme-t-elle.
À la une des journaux également ce matin, Pierre Moscovici, il tire la sonnette d'alarme.
Alors que la Cour des comptes dévoile aujourd'hui son rapport annuel, son premier président cogne dur contre la politique économique du gouvernement et ses prévisions de croissance passées et présentes beaucoup trop optimistes. Contrairement à ce qui était annoncé, nous ne sommes pas sortis du quoi qu'il en coûte, déclare Moscovici. Des efforts d'économie sans précédent sont nécessaires, affirme-t-il, efforts qu'il chiffre à 50 milliards sur la période 2025-2027. Voilà, Emmanuel Macron lira cette potion amère. Peut-être se dira-t-il qu'il est quand même dommage que l'ancien ministre des Finances de François Hollande ait attendu de quitter Bercy pour se montrer aussi rigoureux sur les comptes de la nation.
La revue de presse d'Europe 1 signée Olivier Delagarde. Merci beaucoup Olivier. On vous retrouve tous les matins sur le coup de 9h moins le quart. Tout à l'heure sur Europe 1, 11h-13h, vous connaissez le rendez-vous.
C'était la revue de presse avec Conto. Un compte pro et des outils adaptés aux PME pour la gestion des dépenses, la facturation et la comptabilité. Conto, c'est le compte pro qu'il vous faut.
Le rendez-vous, disais-je, 11h-13h sur Europe 1. Pascal Pro et vous, c'est vous, chers auditeurs, qui prenez la parole. Bonjour Pascal.
Bonjour. Faut-il continuer de soutenir financièrement, militairement l'Ukraine? C'est un débat mouvementé qui s'annonce à l'Assemblée nationale. On posera évidemment la question aux auditeurs. On parlera également de la fin de vie. On pourra revenir sur la fusillade de Rennes. Dans les sujets plus légers, un boulanger français âgé de 21 ans a décroché le titre de champion du monde de pain au chocolat et de chocolatine. Et puis, je ne sais pas si vous en avez parlé, Olivier, Picasso,
comment ça? C'est un jeu de mots.
Vous connaissez pas Picasso?
Picasso, mais
enfin, Picasso, c'est un cochon qui avait été élevé par une dame qui s'occupait des cochons, de la ruralité.
Oui.
Et ce petit cochon peignait depuis des années des toiles qui étaient vendues jusqu'à 25 000 euros. Picasso. Picasso est mort.
Un cochon peint.
Mais enfin, et je trouvais cette histoire formidable.
Alors là, on
d'abord
est passé à côté.
Mais la valeur de ces toiles a forcément bondi.
Mais tout le monde connaît Picasso, cher ami. Et donc, les toiles étaient vendues, Picasso, et il est décédé, ce cochon.
Hein.
Mon Dieu. Mais bien sûr, c'est
il
coloré.
Il peignait quoi avec sa
truffe? Parfois, vous savez, il y a des artistes contemporains.
Avec son groin, il peignait.
Elle lui avait mis un pinceau, elle l'avait appris.
D'accord.
à peindre à son cochon. Mais vous savez, parfois, il y a des toiles contemporaines. Lorsque je vais chez certains amis, je me dis que c'est peut-être Picasso qui les a...
Je connais un chien qui peint aussi, comme quoi tout est possible.
Oui, bien sûr. Oui.
L'histoire de l'âne, on avait accroché un pinceau à la queue de l'âne.
Bien sûr. Bien
passionnant ce sujet. 01 80 20 39 21. Si vous avez un animal qui peint, appelez-nous.
Écoutez, vous avez lu ça où?
Mais partout sur les réseaux sociaux, Picasso. Non, je crois même que le Parisien en a parlé un petit peu.
Génial qu'on vous retrouve aussi, Pascal, dans 10 minutes.
L'heure des pros. C'était un plaisir.
À tout à l'heure. On passe à Emmanuel Ducrot ce matin. Emmanuel, bonjour.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Vous revenez sur l'affaire de la photo retouchée de la princesse Kate Middleton. Alors, vous nous dites ce matin que cette histoire, c'est l'exemple même de tout ce qu'il ne faut pas faire en matière de relations publiques.
Et c'est la recette rapide pour obtenir en moins d'une journée une théorie du complot de grand luxe qui va durer des mois. L'ingrédient de base, c'est un personnage de qualité. Il nous faut Kate Middleton, princesse de Galles. Les grands chefs vous le diront, une bonne recette, c'est avant tout un bon produit capable de susciter le fantasme. Il faut organiser un effet de rareté. Disons qu'elle disparaîtrait de la circulation de longs mois après une mystérieuse opération. Voilà pour la préparation de notre recette du complot mondial.
Alors la suite de la recette, c'est quoi?
Bien, c'est un subtil dosage d'inconscience et d'amateurisme. On publie sur les réseaux sociaux une photo officielle non datée, c'est important.
C'est celle qui est parue dans les journaux hier.
Dimanche sur les réseaux sociaux. Cliché en apparence anodin pour la fête des mères, la princesse et ses enfants hilars sur une terrasse. On légende la photo « Merci pour le soutien et les encouragements ces deux derniers mois ». On crédite le cliché de l'héritier de la couronne, le prince de William himself. On laisse mariner quelques minutes, ça suffit. Et on observe l'intense fermentation qui se produit, ça gonfle, ça mousse. Et ça déborde du plat.
Oui, il y a plusieurs millions de réactions sur les réseaux sociaux, notamment.
Spectaculaire. Hein. Oui. En quelques minutes, la photo est désossée par le public mondial. Quelque chose cloche. Ici, une manche de la princesse Charlotte qui a été gommée. Là, le motif jacquard du pull du petit prince George qui se duplique de façon illogique. Le visage de Kate Middleton qui semble copié d'une ancienne photo. Des bras qui adoptent un angle étrange. Une alliance absente. L'affreuse évidence, les Windsor ont menti. On a retouché à la truelle la photo de famille, vue 81 millions de fois en quelques heures.
Alors, étape importante et cruciale de notre recette, c'est la validation du doute par une autorité.
Et oui, les grandes agences de presse, AP, Reuters, AFP, suppriment l'image de leur fille, expliquant qu'elle a été manipulée. Rien de tel pour pimenter une histoire comme jamais. La machine à délire était lancée et là, elle s'emballe totalement.
Ouais, on peut difficilement quand même faire pire qu'une fausse image pour rassurer le public sur l'état de santé de Kate Middleton.
Ah bah si, on peut faire pire. On peut faire un nouveau message de Kate Middleton expliquant que comme tout photographe amateur, elle aime retoucher elle-même ses photos. Apothéose, des déferlantes de théories sur le pourquoi du comment de la retouche. En voulant calmer l'histoire, les communicants lui ont donné un écho 100 fois supérieur. Erreur de débutant, on appelle ça l'effet Streisand. Il tient son nom de la chanteuse Barbara Streisand qui, en 2003, voulant empêcher par un procès la publication de photos aériennes de sa maison, avait rameuté la terre entière. Effet Windsor.
Qu'est-ce qui s'est passé avec cette photo? On a le fin mot de cette histoire de photo truquée?
Ah ben pas du tout, je n'ai pas le moindre début d'explication de preuve, personne d'ailleurs. Mais on a pu observer là un mécanisme qui est à chaque fois le même, pour le people comme pour le reste. Un phénomène accéléré en pleine lumière à échelle mondiale de l'essence d'un complot. C'est fascinant, c'est inarrêtable. Et pour tout dire, c'est désespérant d'irrationalité.
Oui, on a hâte de savoir le fin mot sur cette photoshopée.
Ou pas?
Bah si, quand même, malgré tout. A-t-elle encore ses bras, la princesse Kate Middleton? Certains soutiennent qu'on les lui aurait amputés. Non mais vous vous rendez compte? Merci beaucoup Emmanuel Ducrot, 8h53.
7h, 9h, Europe 1 Matin.
Et c'est l'heure du zapping politique. Bonjour Dimitri Vernet.
Bonjour à tous. Emmanuel Macron a donc sorti de son chapeau le fameux projet de loi sur la fin de vie. Un projet de loi apolitique, si l'on croit le sénateur centriste Hervé Marseille sur Public Sénat.
C'est un sujet intime, c'est pas un sujet droite-gauche.
Mais est-ce vraiment le cas? Gros doute pour l'inspecteur gadget François-Xavier Bellamy. L'inspecteur Bellamy qui était sur nos antennes d'Europe 1 et CNews.
Je crois que personne n'est dupe du moment dans lequel cette annonce intervient. Nous sommes à la veille d'une élection européenne.
Qu'est-ce qu'il a à répondre à ça, Hervé Marseille?
J'irai pas jusque-là. C'est un peu taquin.
Je vous arrête là. Il est fort, cet inspecteur Bellamy. Rien ne semble anodin, surtout que pour les européennes, le disque de défense des macronistes semble rayé sur l'argument « le méchant Rassemblement National ».
C'est la même chanson.
Exemple avec Sylvain Maillard sur TF1.
Le Rassemblement National, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent sortir de l'Europe. Ils sont des amis de Vladimir Poutine. Le rapport parlementaire le dit très clairement, c'est la courroie de transmission de Moscou.
Seul à se démarquer, notre cher Karl Olive sur LCI.
Je vous le dis, moi je suis pas pour aller flinguer, faire comme Philippe Noret dans Le Vieux Fusil, le Front National, c'est pas ça. C'est ça qui les fait monter.
Ah, sauf que deux secondes plus tard, bah, finalement, il a sorti le fusil.
Je vais vous donner juste quelques exemples, si vous me le permettez. Plan de relance européen. Nous l'avons voté, ils ont voté contre. C'est ça le Rassemblement National. Je vous donne un autre exemple. Le plan d'indépendance énergétique. Nous l'avons voté, ils ont voté contre.
Bon, t'as le volet chasseur, dis-moi un truc, il tire.
Réponse du berger à la bergère, le député RN Laurent Jacobelli sur France Info.
Je crois que cette stratégie de chiot un peu énervé qui mord les mollets n'est pas une stratégie raisonnable.
Mais la majorité a-t-elle vraiment le choix? Vous les voyez vraiment défendre leur tête de liste? Valérie Ayé, Valérie Ayé.
Ah, c'est une nouvelle chanson.
Valérie Ayé, dans son style déjà bien connu sur France Info.
Simplement, qu'on prenne un peu de perspective. Soutien plein à l'Ukraine. On a voté un paquet d'aide de 50 milliards d'euros pour l'aide, pour aider l'Ukraine. On est entré, Vladimir Poutine est entré en guerre.
Buguer. Ouais. Il a la dent dure, Dimitri Vernet, avec Valérie Ayé. Il n'a pas fini de se moquer. D'ici le 9 juin, premier tour.
Ah oui, il y a du temps.
Je raconte premier tour.
Il n'y a qu'un seul tour.
Merci beaucoup, Dimitri Vernet. C'était votre zapping politique. Dans un instant sur Europe 1, restez avec nous. L'info continue. L'heure des pros. Bonne journée. À demain.